Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle séance de Un coin de pixel, le podcast avec Monsieur Sandro le Rouquin. Bonsoir Sandro.
Bonsoir Monsieur Yannick.
Avec Greg aussi perché sur son tabouret.
Bonsoir Yannick, bonsoir Sandro. Bonsoir Sam.
Et le dernier des larrons ce soir qui est Sam.
Bonsoir messieurs, mes hommages Yannick.
Mes hommages à vous aussi. Aujourd'hui nous excuserons Monsieur Sébastien qui malheureusement est malade. Et qui ne fera pas partie du podcast.
Alors qu'il devait nous amener sa nouvelle rubrique sur les jeux de société, c'est un scandale.
C'est un scandale,
c'est
effectivement.
C'est le track,
il a eu peur, il s'est dégonflé.
Du coup, tu en profites pour faire un petit teasing pour la prochaine émission. Bien joué.
Bien vu. Alors aujourd'hui, encore une fois, une émission freestyle avec Bellotte au platine. Donc ce soir, moi, il y a une question qui m'intéresse. On ne s'est pas vu depuis un petit moment.
Depuis 2013.
Alors déjà, bonne année à tous nos auditeurs. Et ensuite, la question qui me taraude, c'est que pouvait-on trouver sous votre sapin de Noël, messieurs ?
Vidéoludique, donc.
Vidéoludique, bien sûr. Les chaussettes, les cravates, non, moi j'en ai rien à fiche de ça.
Casserole, non, on peut en parler.
Ouais, casserole non plus, c'est pas très vidéoludique, d'accord. Ça. Ouais, moi, je sens que des gens ont reçu des petits cadeaux, là. Sam ?
Alors moi, je me suis offert un cadeau.
Oh, c'est beau.
Sous sapin, d'ailleurs, aussi. Une Xbox One.
Très bien, une Xbox One. Monsieur Greg aussi, quelque chose sous le sapin ?
Alors, ma femme adorée m'a fait la surprise de m'offrir aussi une Xbox One.
Quel bon goût ! Monsieur Sandro, quelque chose ?
Moi, j'ai eu une double, moi. J'ai eu la double, moi. J'ai eu de la chance. J'ai forgé ma famille au fil des années, tu vois. Et là, enfin, ils ont compris. Et j'ai reçu une Xbox 360 et une PS4.
Une Xbox 360 ?
Une Xbox One.
Ouais, tu les as bien
chanceux. J'ai bien chance. J'ai assuré. Je veux pas les appeler par leur nom, ces nouvelles consoles.
Une Xbox One et une PS4,
ouais,
ça,
une
c'est
PS4
la classe.
C'est...
Ça, c'est la classe.
Ouais. Ça sert à rien, mais c'est la classe.
Alors moi, sous le sapin, enfin c'était un pré-sapin, j'ai fait un peu comme Sam, je me suis offert une PS4.
Nous voilà bien équipés.
Donc félicitations à tous. Je pense qu'on a tous un petit mot à dire sur ces consoles avant de rentrer dans le vif du sujet de notre émission ce soir, qui sera un petit peu un commentaire des différentes news qu'on a pu voir ces derniers temps. Alors, quelles sont les premières impressions sur ces consoles, messieurs ?
Quelles sont les premières impressions ?
Sam, je
vais pas commencer moi parce que après je vais être mal poli.
Si, mais vas-y, commence par ta Xbox One, chérie.
Ah oui, bon, après effectivement, ça, moi, on a vu un petit peu mes impressions par rapport à la Xbox One qui sont relativement désastreuses. Pas de point de vue de jeu parce qu'elle est plus sérieuse que sa concurrente, donc je parlerai pas des taux des jeux, mais au niveau du matos, c'est une catastrophe. C'est... Ben voilà, moi le constat de me retrouver avec une console qui met plus de temps à arriver en jeu qu'un PC. Bon, pour moi, c'est
démarrer, tu veux.
Ouais, arriver en jeu, c'est-à-dire du moment que j'appuie sur le bouton et jusqu'au moment où je suis en train de jouer, je vais beaucoup plus vite à allumer mon PC et à lancer un jeu et être en train de jouer avec mon PC qu'avec ma Xbox One. Mais là, on arrive dans un monde qui me plaît moyennement, en fait. Je dois dire que moi, j'aime bien, j'aime cette efficacité qu'avait la console, et là je
le plug and play,
le plug and play, voilà, où il y a pas trop de chichi, où là justement on n'est pas à se prendre la tête comme avec un PC où c'est direct, et là je me retrouve à voilà, résultat, ça m'a donné très envie de faire toute une installation pour mettre Steam sur ma télé avec mon PC, et aujourd'hui bah voilà, je démarre mon PC puis je joue plus vite que sur ma One, donc c'est grave.
C'est assez grave, en effet.
Pour moi, en tout cas, c'est très important.
Ah non, je comprends. Voilà. L'époque du « je prends ma cartouche, je la mets dans la console et c'est parti pour jouer », c'est gentiment fini.
Mais on était déjà un petit peu plus loin de ça avec la Xbox 360. Mais là c'est sans comme une mesure. Hein.
Alors, moi, c'est marrant. Parce que personnellement, pour encore utiliser pas mal ma 3.6 pour différents usages, dont la VOD... honnêtement, ma Xbox One, même quand je la démarre depuis le départ, démarre plus vite que ma 3.6. Je me demande si t'es pas mal tombé aussi. Je sais pas, parce que alors oui, bien sûr, on est loin du plug and play, mais on est aussi assez loin du. Alors bien sûr, sauf si tu as acheté un nouveau jeu et que tu décides de l'installer, auquel cas là, on est vraiment à mon avis dans l'échec total. Là, pour moi, c'est le plus grand grief que j'ai à faire à la Xbox One, c'est cette logique d'installation obligatoire des jeux achetés en disque qui prennent des plombes. Alors il y a un petit conseil pour les auditeurs quand même. Il semblerait que si vous procédez à l'installation de votre jeu en n'étant pas connecté à internet, ça se passe beaucoup mieux, parce qu'en fait elle va pas commencer à aller télécharger les patchs, à les installer en parallèle qu'elle installe le DVD, enfin le Blu-ray, donc du coup ça se passera un peu mieux, mais ça reste à mon avis inadmissible. Il va vraiment falloir que Microsoft réagisse là-dessus.
Pour les deux comptes PS4, est-ce que c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là?
Ouais.
Ouais.
Ouais, alors moi je trouve qu'elle réagit vite, c'est une console qui réagit vite, les menus bon, ils sont pas ça ressemble à de la PS3, mais je trouve que c'est lisible.
Moi honnêtement, je trouve les deux interfaces relativement dégueulasses.
Mais ouais.
Mais après par contre effectivement, je pense que au niveau rapidité, la PS4 a pas c'est comme les anciennes consoles quoi, c'est.
Comme les anciennes consoles, je suis pas d'accord. Hein. La PS3 elle avait le même problème que la Xbox One à l'heure actuelle. Quand tu devais installer un jeu, la PS3 elle prenait des plombes.
Ah, de ce point de vue là, je parle de la réactivité de l'interface, passage en jeu, etc.
Alors moi je vais quand même mettre un petit bémol, parce que je sais que ça gêne profondément Sandro, mais ça gênera pas forcément tout le monde. Moi je fais pas partie des gens que ça gêne, mais si tu laisses la Xbox One en démarrage rapide, c'est-à-dire en espionnage industriel total et de ton intimité par Kinect, la console est extrêmement réactive et là on est vraiment proche du plug and play. Alors certes, il y a encore les temps de chargement à améliorer, je pense qu'ils y viendront. Mais là par contre vraiment la console est extrêmement réactive, tu reprends tes parties rapidement.
C'est bien que tu abordes ça parce que moi je voulais rebondir là-dessus. Moi j'ai farfouillé un petit peu, bon, elle n'est pas encore disponible vraiment officiellement en Suisse, mais j'ai farfouillé un petit peu des systèmes de VOD et dont de séries dont je suis assez friand. Et le système a l'air vraiment, vraiment bien fichu. Donc ça, je pense que c'est une console que j'ai vraiment utilisée, ayant un PC assez performant, que j'ai aussi beaucoup utilisé pour cet aspect-là. Donc voilà, ça change. C'est pas franchement ce à quoi je m'attendais.
Elle est construite pour ça,
ça a l'air de bien marcher. Ouais. Pourquoi pas.
Mais c'est voilà, moi ce qui m'a choqué, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est un PC en fait. Je trouve dans toute sa façon de hormis si on la met sur veille, comme un PC on peut le mettre sur veille et puis le démarrer, dès qu'on l'éteint complètement, bah il y a vraiment cette sensation de PC, du DPC qui démarre, qui arrive sur une interface. On est vraiment en train de se retrouver avec un PC dans le salon en
fait. Surtout que moi j'ai Windows 8.1 maintenant, et puis l'interface Xbox et Windows c'est très très proche. Il y a vraiment une idée d'uniformiser tout ça,
et je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre qu'ils font comme erreur, c'est que cette interface elle est magique sur téléphone, elle défonce sur téléphone, je trouve, en tactile en fait, c'est une interface tactile, mais tant sur Windows 8 que tant sur Xbox One ou 360, je la trouve pas terrible en fait. Et je trouve bizarre qu'ils veuillent pas se dire c'est juste des choses différentes, on n'interagit pas avec les mêmes périphériques, donc on fait une interface qui est adaptée aux périphériques avec lesquels on l'utilise. Et là je trouve que ça ils le réussissent pas tant quoi.
Ouais, et puis ça vient du fantasme aussi de Kinect, et le premier et le deuxième, où tu peux imaginer que ça serait une sorte de palliatif au tactile. Malheureusement, force est de constater que même avec le deuxième Kinect, au niveau des gestes, ça marche pas.
J'ai pas essayé sur la One. On peut toujours le faire.
Et ça marche. Alors maintenant, on n'a plus besoin de laisser la main. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de push, ce qui est plutôt une bonne idée d'appuyer dessus. Mais honnêtement, alors soit j'ai mal calibré mon Kinect 2, je vais pas passer des heures dessus non plus, soit vraiment c'est mal branlé. Mais honnêtement, tu laisses très vite tomber ça pour soit revenir à la manette, soit à la voix. Qui pour le coup, la navigation, vu que l'interface est relativement bordélique pour aller trouver les sous-couches, la voix ça marche plutôt bien. Au moins, tu tombes tout de suite sur ce que tu veux. Donc voilà. Mais...
Ouais. Peut-être que c'était voulu, hein. Peut-être que c'était prévu. On va faire exprès faire un truc obscur pour que les gens s'habituent. Pourquoi pas.
Mais c'est ni l'une ni l'autre ont l'air d'être de franches réussites. Je pense vraiment que les deux, on sent. Alors d'autant plus chez Microsoft, on sent vraiment qu'ils payent leur revirement. Leur virage à 180 degrés de cet été, où vraiment on sent que l'interface a le cul entre deux chaises. Je pense encore une fois à l'installation des jeux obligatoires. On sent qu'il y a plein de choses qui viennent de l'ancienne politique qu'ils avaient. Peut-être qu'aurait été au final bénéfique, on ne sait pas. Chez Sony, je ne sais pas. Apparemment, c'est quand même plus cohérent, on va dire. Là, Microsoft, on sent que c'est pas cohérent pour l'instant.
Moi, je pense qu'il y aura. C'est des consoles qui ont beaucoup de place aux futures mises à jour de dashboards, des genres de choses et d'amélioration de fluidité, je suis sûr que ça va beaucoup plus évoluer. En bien ou en mal, je sais pas, mais en tout cas, ça risque de beaucoup plus.
Il n'y a qu'à voir la 360,
oui,
voilà, le premier menu qu'elle avait.
Il y a encore des nostalgiques des Blades, les fameuses Blades, effectivement, ouais. qui étaient plutôt efficaces, hein, qui étaient moches, mais qui étaient plutôt réactives.
Oui, par rapport à la toute dernière que je suis moins fan. Hein.
T'es sûr. Et au niveau des jeux, je pense aussi qu'on est tous un petit peu déçus. À l'heure actuelle.
Alors, la Xbox 360 est plus consistante.
La One, mon ami.
Décidément, mais c'est pas possible.
Je ne veux pas l'appeler One, quoi. Bref, la One est plus consistante, mais par contre, mon jeu préféré reste sur PS4, parce que, moi, j'ai une affinité, j'aime beaucoup Resogun.
Aussi beaucoup Resogun.
Si, dans l'absolu, c'est un peu tout ce qu'il y a, alors que la One a quand même un très bon Killer Instinct, a un très bon Dead Rising, et puis a tout soudain un très bon Titanfall. Donc, un principe très bon. Donc, c'est quand même léger par rapport à PS4.
C'est sûr. PS4. Bien. Alors, après ce petit tour... du sapin de Noël, on va un petit peu parler des différentes actus qui nous ont marqué récemment, je veux dire.
Il faudrait juste préciser qu'on chambarde un petit peu tout.
Oui, mais je l'ai dit au début, aujourd'hui c'est freestyle, monsieur. Aujourd'hui c'est freestyle, on va tout chambarder. C'est un peu. On commence l'année comme ça. On s'est dit, on va se mettre dans la merde, on va tenter de pousser nos limites à leur paroxysme et on va faire un grand n'importe quoi aujourd'hui, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Donc,
ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre peut-être la prochaine fois un podcast d'analyse, mais c'est juste se donner un peu plus la liberté de parler de ce qu'on veut.
Effectivement, Sandro, tu as raison. Donc, on va parler un petit peu des news qui nous ont marqué récemment, on va dire. Alors, je vais commencer peut-être par Sam. Tu as peut-être envie de nous parler de news qui t'ont marqué ?
Avec grand plaisir. Bon, moi, ce qui m'a vu que j'ai beaucoup joué sur PC ces derniers temps, j'ai beaucoup observé ce qui se passait sur Steam, dans la communauté. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment deux choses qui se passent importantes, c'est que plein de campagnes Kickstarter importantes arrivent gentiment au bout, ce qui fait que des jeux très attendus ou qui ont engrangé beaucoup d'argent arrivent gentiment au bout et les gens attendent vraiment de voir ce que ça donne concrètement, est-ce que ça valait le coup, est-ce que c'est un système qui est économiquement et qualitativement viable pour le futur. Donc ça, c'est, je trouve, assez chouette de se pencher un peu là-dessus. Et l'autre chose c'est, qui est, à mon avis, assez liée, c'est cette mode des early access qui fleurissent de partout sur Steam. Il y a une quantité de jeux incroyables qui profitent, qui utilisent ce mode-là de financement. Et voilà, si vous êtes d'accord, si ça vous fait plaisir, on peut parler un petit peu de ça.
Mais ça me semble très intéressant, effectivement.
Que early access, tu nous parles un petit peu de bêta payante, là.
C'est une bêta payante, voire des fois des alphas payantes. C'est-à-dire que les développeurs arrivent de plus en plus à se passer complètement d'éditeurs. Et du coup, non seulement ils récupèrent de l'argent parce que les gens payent pour jouer aux alphas ou aux bêtas, ou en tout cas des versions très très peu avancées. Et en plus de ça, ils perdent profit de la communauté si le jeu est quand même bon pour avoir des bêta-testeurs gratuits.
C'est sûr.
Donc il y a quand même une part qui est importante au niveau de l'argent dans ce enfin monétaire dans ce système là je pense.
Oui, puis souvent le problème c'est que les jeux sont souvent, comme tu dis, même pas en bêta, ils sont en alpha. Et des fois il y a des trucs qui sont limite du jouable, hein. Il y a des bons exemples, ça marche autant. Le jeu qui a un peu mis ça en avant et qui a fait exploser cette mécanique, c'est Minecraft. Ça, pour moi, je pense que typique ce genre de jeu, ça marche très très bien. Parce que justement, on a un monde, on a des mécaniques qu'on peut empiler les unes sur les autres.
C'est du gameplay émergent.
Voilà, et on étoffe les possibilités. Là, ça marche super bien. Mais il y a d'autres cas où quand on fait un RPG typique avec Wasteland, et puis que le truc tourne à peine, qu'il manque plein de trucs, qu'on voit une toute petite partie du jeu, on est vraiment, les joueurs font du travail de debugging, en fait.
Tout à fait, c'est
pour
ça.
Pour les développeurs. Et là...
Alors moi, je vais être plus radical que toi. Pour moi, c'est absolument inadmissible. C'est quelque chose, personnellement, c'est un vrai problème, comme tu dis, dans certains types de jeux, hein. Je te rejoins tout à fait sur Minecraft et d'autres exemples du même type, mais par contre pour ce qui est des jeux peut-être plus narratifs, peut-être des RPG, je trouve ça hallucinant que les gens donc, qui ont payé fait un acte de foi envers le développeur se retrouvent dans une position de bêta testeur, donc ils se flinguent clairement une partie de l'expérience du jeu final. C'est clair et net. C'est comme, j'aime pas trop faire des parallèles avec le cinéma, la littérature ou des autres médias, mais des médias très narratifs, c'est comme si vous participiez à une projection sans effets spéciaux d'un film qui demande des effets spéciaux. Pour moi, vraiment, vous flinguez une partie de l'expérience finale et de manière définitive. Et ça, je trouve ça vraiment dommageable pour le joueur. Et j'espère que c'est une tendance qui va pas trop se...
C'est mal parti pour vu le succès que ça. Hein.
Mais faut voir les joueurs. Pour l'instant, il y a peut-être une fascination parce qu'on passe un peu de ce côté-là. On est un petit peu contre les gros jeux, les gros systèmes. On est un peu dans cette idée de on participe un peu à l'effort de guerre, ce qui est chouette. Hein, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais au final, je pense que c'est quelque chose qui lassera. Moi, personnellement, j'ai même pas envie de mettre le doigt dedans, mais j'ose espérer que ça peut lasser un peu les gens.
Moi, j'espère aussi, c'est que je pense que ce qui plaît aux joueurs actuellement, c'est qu'ils peuvent se dire « Ah, c'est bien, je peux être impliqué dans quelque chose qui habituellement n'est pas du tout de mon ressort. » Genre, j'attendais que mon jeu sorte. Il y avait des développeurs éditeurs qui écoutaient un peu les retours, 2-3 patchs, mais voilà, c'était quand même des jeux qui étaient censés être relativement finis. Et là, vraiment, les joueurs, tout d'un coup, peuvent se sentir impliqués, avoir l'impression d'être presque au même niveau que certains développeurs.
Et il y a le danger de Mass Effect 3, hein, encore une fois, il y a ce danger qui est jamais très loin.
Oui, bah, c'est un très bon exemple, effectivement. Ouais. Si quand les joueurs qui payent ou pas commencent à pouvoir vraiment modifier en profondeur des gameplays ou des scénarios, disons, la part de créativité des développeurs risque d'être sérieusement amputée.
Mon Dieu. Non, moi, pour moi, c'est vraiment une crainte.
Ouais. Mmh. Ouais, c'est, ouais. Enfin, pour moi, c'est, voilà, c'est, comme tu disais, ça dépend par qui c'est utilisé, comment c'est utilisé. On a eu des très bons exemples et des très mauvais. Je pense que voilà, peut-être toi, tu as fait Divinity, justement.
Alors oui,
Divinity,
moi, je pensais à deux exemples. Bon, je pensais aussi au jeu de Telltale, le Walking Dead saison 2 qui vient de commencer, et puis le Wolf Among Us. En très vite, donc c'est un peu différent, c'est un season pass où on achète avant, mais n'empêche qu'on donne ses sous sans savoir trop dans quoi on met les doigts, et je dois dire que je suis assez déçu. Je suis assez déçu en tout cas du suivi qu'il y a, d'abord en même temps on paye à l'avance pour des jeux qui seront, la version finale sera disponible dans, je sais pas, peut-être un peu moins d'un an, mais quand même.
Mais tu parles des Telltale ou tu parles
des Telltale là en l'occurrence.
Ok, bon. Mais pour moi c'est quand même relativement différent vu que c'est du... C'est, eux, c'est vraiment une
non, ce
publication
dire,
par contenu épisodique.
Ce que je veux dire quand même, c'est que à ce niveau-là, les joueurs ont l'impression, à tort ou à raison, je ne sais pas, d'avoir le droit à la parole par rapport à ce qui sort, etc. Donc là, il y a le deuxième épisode de Wolf Among Us qui vient de sortir. Moi, j'ai été un peu déçu. Les joueurs, il y en a pas mal qui ont hurlé à la mort, disant que c'était un scandale sur plusieurs points, durée de vie, ce genre de choses. Et Telltale n'écoute pas trop ces joueurs-là, donc c'est leur choix, mais... Est-ce que s'ils écoutaient, est-ce que ce serait mieux ? Dans le sens, est-ce que, ouais, d'accord, on va modifier parce que les joueurs cherchent plus ça. Enfin, je trouve vraiment que ce fait de mélanger le consommateur au développeur, c'est pas franchement très très bon, quoi. Et puis l'autre exemple qui est pour la récurrence plutôt intéressant parce qu'il y a un retour des développeurs qui est, à mon avis, sain envers ces consommateurs clients. C'est pour Divinity que j'ai essayé, effectivement. De toute façon, c'est un jeu que je voulais faire une fois qu'il serait disponible. La sortie serait définitive. Là, j'ai juste voulu faire un tour dessus au niveau des mécaniques de jeu. J'ai pas du tout regardé au niveau de l'histoire, voilà, le scénario, je vais pas me spoiler là-dessus, mais au niveau des mécaniques, voir un petit peu ce que ce projet, ce que Kickstarter avait à montrer, vraiment à apporter. Et c'était très intéressant de voir qu'ils nous permettent d'essayer ça et puis qu'ils sont énormément à l'écoute des retours en fait, qui se font avec vraiment bon, déjà des mises à jour qui se font quasiment toutes les semaines. Sans forcément brosser les consommateurs dans le sens du poil, parce que les sauvegardes par exemple sont tout le temps rebootées, donc elles sont jamais compatibles entre elles, donc c'est vraiment
ouais, mais c'est pour moi là où on rentre dans le un peu le voilà, t'es moi c'est marrant, j'aurais mis, enfin moi j'ai plus suivi le cas Wasteland, mais j'aurais mis ça vraiment dans les mauvais exemples en fait. C'est-à-dire que c'est des RPG à gros avec un scénario, avec des vraiment tout ça, et tu te casses complètement le jeu de participer à ça en fait.
Vu que justement l'aspect scénaristique n'est pas vraiment disponible, c'est plutôt l'aspect, on va dire, gameplay du scénario, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais les conséquences gameplay scénario qui sont.
Ouais, mais voir,
mais les quêtes que tu es en train de faire, que tu as dans toute cette partie du monde, bah, tu les retrouveras dans le jeu final.
Non, parce qu'elles changent un peu au fur et à mesure. En fait, ils essayent justement différentes mécaniques. Les quêtes de tout début du jeu, elles sont tout le temps un peu. Enfin, elles ont changé plusieurs fois déjà.
Ils vont tout réécrire les textes, ils vont tout réécrire.
Pas tout, mais. Parce...
Mais de toute manière, tes fleurs, enfin tes feuillettes, on va dire, une jolie fleur d'un beau bouquet que tu aurais pu peut-être découvrir comme ça dans toute sa splendeur à la sortie, d'une certaine façon. Alors après, il y a peut-être un côté fascinant parce qu'en même temps, t'es content de participer à ça ou de voir, enfin, on l'attendait beaucoup Divinity, donc on est... Mais il me semble quand même que c'est se gâcher un peu le plaisir. Quoi.
Je pense qu'effectivement, je vais me gâcher une petite partie du jeu au final. Moi, j'ai surtout fait parce que j'étais vraiment curieux par rapport justement à ces early access. Et je voulais voir un petit peu ce que ça faisait. Donc, c'est un peu, j'ai vu un peu en pionnier. Genre, c'est le jeu que j'ai choisi parce que j'aime bien l'Ariane. Et puis, voir un peu comment ça fonctionnait vraiment entre ces retours de joueurs.
Mais c'est quand même hallucinant.
C'était
le boulot des journalistes à l'époque, c'était ça, c'était de jouer à des previews.
Et puis de payer aussi des bêta-testeurs qui travaillent, et puis c'est un métier, bêta-testeur.
Pour le coup, je pense qu'ils en ont quand même, mais effectivement, les joueurs font un travail de fou à ce niveau-là. Mais moi, je préfère, dans le meilleur des mondes, j'aurais préféré que ça ne sorte pas comme ça.
Ok.
Voilà.
Bon, moi, je résumerais vraiment pour moi, en tout cas de mon point de vue, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais moi, je résumerais assez le truc, c'est que quand on a un jeu à système, c'est vraiment un jeu qui est centré sur des systèmes, ça convient parce que le joueur, on a eu Endless Space aussi qui a très bien fonctionné comme ça, où tu balances ton système au joueur, ils y jouent et ils critiquent ton système, ils disent attends là dans ton système ça va pas, il faut corriger ça au niveau de l'équilibre, Là, je pense que c'est relativement intéressant, ça fonctionne bien. Du coup, tu peux lui rajouter des couches, tu peux le travailler sur la longueur. Mais pour autant que ta première version, ça ne soit pas une alpha complètement buggée et injouable, il faut quand même que ça se tienne, quoi. Et puis là, je trouve que c'est intéressant. Mais par contre, quand on rentre dans le jeu vidéo narratif et moins système, moi, je suis plus sceptique.
Voilà. Moi, ça me dérange quand même un petit peu hein, ton histoire de dire que voilà, quand c'est un jeu à gameplay, ça dérange peut-être moins d'avoir payé pour avoir un early access, si tu veux. Après, je vais prendre un jeu qui n'a rien à voir avec les Kickstarter, mais si tu prends Hearthstone, pour moi, il y a quelque chose qui me dérange dedans. Fondamentalement, c'est que c'est un jeu qui est en bêta, où on va encore modifier énormément de règles dans le gameplay, modifier des coups de cartes, etc. Mais par contre, on te propose quand même d'acheter des boosters qui te font gagner des cartes qui, au final, seront peut-être potentiellement nettement moins fortes par la suite. Enfin, je sais pas si tu vois ma logique. Pour avoir un ami qui a énormément joué à Hearthstone, qui est un jeu en bêta, il a déjà claqué 120 francs en booster dedans pour des cartes qui, au final, sont devenues complètement désuètes par la suite.
Tu sais où je suis mitigé là-dessus ? Pour y avoir joué, déjà, il donne quand même un bonus. Ça, c'est toutes les cartes modifiées, en fait. Du moment qu'il y a une modification,
tu peux les récupérer en poussière.
Ouais, tu récupères leur poussière pour beaucoup plus. Mais plus loin, je pense que Magic, ça fait combien de temps que ça existe ?
C'est dans la même logique, Magic. Hein.
Mais c'est la même logique, c'est-à-dire que le jeu est jamais équilibré, c'est sans arrêt en rééquilibrage.
T'as des cartes qui ont été interdites, alors certes, tu pouvais les revendre à prix d'or, mais t'as. Enfin, je veux dire, au niveau du système, t'avais des decks qui tombaient en désuétude.
Ouais, peut-être.
C'est un peu la logique des jeux de cartes, je pense.
Peut-être.
Pas la logique des jeux de cartes.
Peut-être. Mais après, voilà, appeler ça encore une bêta, quand Magic est sorti, c'était plus appelé. Enfin, ça s'appelait plus une bêta.
Mais après, très vite, on a quand même parlé très vite alpha, bêta.
Je suis d'accord avec toi pour les éditions. Donc, ok, voilà. Je me tais. Bon suite. Sur ce, on va passer à quelqu'un d'autre. Merci, Sam, pour ton sujet. On va passer à Greg qui va nous parler des jeux épisodiques, justement.
Ouais, bah c'est un peu dans le même. Je vais faire très court, hein, c'est un peu dans la même logique que ça. Mais c'est vrai que là, on a vu avec Kickstarter, ben justement avec le fameux Broken Age, hein, ça fait erreur, qui était la star des Kickstarter, celui qui a un peu lancé au niveau du jeu vidéo la fièvre de l'investissement du crowdfunding. Là, le premier épisode est sorti. C'était pas prévu à la base que ça sorte de manière épisodique. Alors, ça sera deux épisodes, hein, je crois, seulement pour le Broken Age. Donc ouais. Et on limite des dégâts. Mais quand en parallèle, vous avez le nouveau Chevalier de Baphomet qui sort lui aussi en épisodique, et qu'en parallèle, vous avez les Telltale, alors même si c'était dans leur ADN de sortir de manière épisodique, au bout d'un moment, on se retrouve avec que des jeux en kit. Et moi, personnellement, c'est comme si on s'amusait à suivre 5 séries ou 6 séries, ou voire 10 séries en parallèle à la TV ou en DVD. Et au bout d'un moment, je trouve que ça brouille beaucoup la lecture d'un jeu ou d'une œuvre. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et surtout quand c'est fait de manière, on sent que c'est fait de manière un petit peu à l'arrache, comme ça a l'air d'être le cas pour Baphomet surtout, et un peu pour Broken Age.
Voilà, c'est ça. C'est que dans Silence on joue, ils en parlaient la semaine passée ou celle d'avant.
Oui, j'ai entendu.
Et puis justement, ils disaient un truc assez intéressant, qu'effectivement, par exemple dans les Telltale, ça dérange moins parce qu'on sent que c'est pensé dès le départ
c'est
comme
volonté.
Ça. Donc on a des twists à la fin, on a pas comme une bonne série télévisée. Il y a ce relancement. Alors là, pas d'objection. Mais par contre, effectivement, comme on a des jeux comme Broken Age ou comme les Baphomet, où là on sent que ça a été cuté parce qu'il y a pas de fric et puis qu'il y avait pas de temps. Et ben là, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et puis même, j'aimerais pas. Alors même si on s'y oriente peut-être un petit peu, j'aimerais pas que le modèle Telltale, même dans l'absolu, ce côté maîtrisé hein, de la logique de saison, j'aimerais pas trop que ça se généralise parce que je trouve que c'est un peu paresseux au final.
Bah enfin, on se souvient d'Alan Wake, ce jeu de merde qui était en épisode.
Quel gros jeu de merde.
Non mais au moins Alan Wake, on avait tout sur la galette. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que par là, ou même aussi le phénomène des séries US, alors on est encore dedans, mais on y est un petit peu revenu quand même. J'aimerais pas que le jeu vidéo vive ce même phénomène et puis que tout le monde passe par ce type de narration. Ouais. Ça, voilà, je pense que, autant à l'époque, j'ai adhéré à fond aux séries US, comme ça, avec leur cliffhanger, comme tu dis, avec leur logique de saison, autant j'ai été très content de me replonger dans les longs métrages quelques temps après. Et je pense, voilà.
Faut que les deux existent, quoi.
Voilà, exactement, voilà. En parallèle.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit des problèmes de contraintes de temps.
Et des fois, j'ai un peu peur quand on entend un petit peu les gros projets, hein, les quadruple A, les triple A des consoles next-gen. Il y a pas mal de rumeurs qui parlent de trucs épisodiques. On l'avait avec le Fable hein, sur Xbox One, où on dit « Ouais, c'est un jeu qui va évoluer tout le temps, machin. » Ouais, on sait ce que ça veut dire, c'est que voilà. Ça...
C'est qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas le budget, on n'a pas si, puis on verra si ça marche, si voilà. Ça marche pas, on laisse tomber.
Et puis on fera, et puis sinon, on ira dans le sens des joueurs, des trucs. Moi, ça me fait un peu peur tout ça. Voilà.
Je pense que plus simplement, il y a des types de jeux qui se prêtent très bien à ce format et d'autres pas du tout. Et puis de vouloir suivre cette logique pour des raisons commerciales, quelles ou de contraintes de temps, quelles qu'elles soient, ou de tests, c'est pas vraiment bon pour l'œuvre.
Oui, en plus, tu peux te réfugier maintenant. Ils se réfugient un peu derrière Telltale. C'est-à-dire que, tu vois, ils diront, pour mon connaître, je dirais, oh, bah, regardez, Telltale, ils font épisodique. Donc, bon, on fait épisodique derrière, mais très mal. Donc, c'est pas.
Ouais, mais Telltale, justement, je les attends vraiment ouais, au point. Ouais. Parce qu'autant Walking Dead, la première saison m'a vraiment convaincu.
Mais.
Autant là, je sais pas s'ils vont réussir à garder leur aura de prestige. Très longtemps.
Ils multiplient les projets en plus, quoi. C'est ça, là, c'est ça. Ils ont je sais pas combien de projets de tournée épisodique. Enfin, les gens vont en avoir ras le cul. Enfin, moi j'en suis persuadé.
Ouais, mais au final, c'est pas un petit peu pour contrebalancer. Enfin, tu vois, on nous sort énormément de jeux AAA, comme bon, je vais prendre Call of Duty, c'est un mauvais exemple, mais où les gens se disent voilà, il y a une campagne de 8 heures, c'est un scandale. Ou voire même, on a une campagne de 6 heures, c'est un scandale, on aimerait avoir un jeu plus long. Et finalement, la réponse des développeurs, c'est de dire, bon bah voilà, on va sortir un contenu épisodique parce que vous voulez des jeux plus longs.
Bah, ce qui est un scandale déjà, c'est lâcher Call of Duty pour sa campagne. Mais ça fait maintenant, ça fait 6 ans, plus même qu'on le sait. Enfin, au bout d'un moment, oui, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt un argument pour ceux qui veulent taper sur Call of Duty, c'est de dire que la campagne est trop courte ou que la durée de vie d'autres jeux solo est trop courte. Je pense que là... Je suis pas sûr que c'est une question de durée de vie. Je crois pas que c'est une question de durée de vie. Je crois que c'est plutôt encore une fois le jeu vidéo là qui un peu découvre cette logique de effectivement Alan Wake qui a été un peu un des précurseurs à ce niveau là, qui découvre cette logique de cliffhanger, d'épisodique et puis qui essaye de garder captif.
Qui essaye aussi un peu de voir comment il peut l'utiliser. Ouais. Enfin, on est au début d'un truc. Ouais. Ça va prendre une tendance élevée pendant un moment, puis ça va retomber, ça va se stabiliser, je pense.
Je suis très impatient que David Cage se frotte au.
Ah, mais alors, on en rêve tous. Voilà, on en rêve.
Saison
tous.
Entière avec David.
Ah, oh, ça serait fantastique. Voilà. Puis lui, en matière de cliffhanger à deux balles, c'est un génie. Se souviendra de la femme enceinte successive à la mendicité dans la rue. Ah, c'est génial.
C'est bien, on avait réussi d'éviter de parler de David Cage jusqu'à maintenant, mais non,
c'est impossible. C'est notre point Godwin, en fait, à nous.
C'est ça, tout à fait.
Bon, sur ça, Sandro, toi, tu vas nous parler de complètement autre chose, et c'est pas si mal.
Bah ouais.
Sandro, fan de PC, va nous parler des streams Steam.
Ah ouais, juste.
Qu'est-ce que le Stream Steam? Déjà le pour moi, parce que je ne sais pas du tout.
Alors, le Stream Steam, le principe, c'est d'avoir son PC qui tourne et d'avoir un autre appareil, que ce soit, ben, dans mon cas, j'ai essayé ça sur Mac, ou une Steam Box avec, sur Linux ou autre appareil.
Une télé qui est compatible Wi-Fi, ce serait possible aussi?
Non, parce qu'il faut Steam. Il faut un support qui puisse qui ait la plateforme Steam dessus.
Mais ça n'a rien à voir avec le Big Picture Steam.
Non, justement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, tu allumes Steam sur ton PC, tu allumes Steam sur ton Mac. Et ensuite, depuis ton Mac, tu vois les jeux en fait qui sont installés sur ton PC et à la place de marquer, que ce soit marqué lancer, c'est marqué streamer. Et tu cliques dessus normalement, ça lance sur le PC de l'autre côté et l'image apparaît juste. Bah, en fait, c'est voilà le principe du stream habituel.
Mais en local.
En local, voilà. C'est on live, mais juste chez toi.
Chez toi,
ouais. Ce qui fait que si t'as un bon réseau Wi-Fi solide ou que même si t'es connecté en câble, moi, dans mon cas, j'ai mon PC qui est connecté en câble et puis mon Mac qui est sur le réseau Wi-Fi. Et honnêtement, j'ai testé pas mal de jeux. Pour l'instant, c'est une bêta. Hein. Donc, il y a encore 2-3 choses, 2-3 jeux, par exemple, sur lesquels ça a planté, ça n'a pas fonctionné. Mais la plupart, ça a très bien fonctionné. Et même des jeux comme Sonic Generation, qui est un jeu extrêmement... où le moindre délai peut être chiant parce qu'il faut être très précis. Et voilà, j'ai pu y jouer sans problème, avec grand plaisir. Donc j'étais assez épaté de me retrouver avec... mes jeux PC sur mon Mac comme ça pouvoir les et puis mon Mac qui est portable donc du coup tu peux le connecter à ta télé, enfin il y a une espèce de voilà, c'est pratique,
c'est le même concept finalement qu'un Remote Play Vita PS4
que la Wii U
alors parlons du Remote Play PS4 Vita que j'ai
essayé. Que la Wii U aussi,
que la Wii U, alors Wii U, alors
ça sauf que c'est un réseau vraiment où tu peux pas, enfin voilà,
ouais, ça change pas grand chose dans l'absolu à part que c'est très fermé, enfin comme d'habitude
c'est avec très console, fermé ouais. C'est pas, ça passe pas par le wifi,
mais
passe,
voilà, on sait que c'est un cheval de bataille. Microsoft est présenté à la presse du Halo 4 streamé sur iPad via une 3.6, enfin voilà, c'est...
Bah, j'étais surpris en fait, plus que le fait que ce soit Steam ou n'importe qui, j'étais surpris que ça marche en fait. Voilà, je m'attendais à que ça soit vraiment une cata et puis que ça soit complètement jouable, puis en fait j'étais plutôt surpris en bien que ça fonctionne. D'ailleurs, je vais juste dire un mot sur le truc PS4 Vita parce que je l'ai essayé et tout le monde dit ouh, mais putain, mais c'est la résolution, elle est de nouveau dégueulasse quoi. J'ai essayé avec Resogun, bah, c'est pas terrible. Hein. Bon. Visuellement, c'est, quand on voit les jeux Vita natifs, c'est beau. Quoi. La Vita, elle a un bel écran. Là, c'est un peu... ça fait un peu seconde zone. Quoi.
Bon, moi, je l'ai essayé avec Killzone ou avec, avec Battlefield.
Alors, c'est pas, c'est,
je trouve pas que ce soit si dégueulasse que ça. Après, c'est sûr que jouer un Battlefield en remote play sur une Vita, on peut mieux faire.
Oui, bon, puis, en tout cas, c'est clairement. Il y en a qui disent ah oui, mais bon, la Wii U, machin, ça a rien à voir avec la qualité de la Wii U de ce côté-là. Elle le fait beaucoup, beaucoup mieux.
On est d'accord.
Vraiment,
est d'accord
pas photo.
Ça reste plutôt un gadget.
Ça reste là, ça reste
plutôt
totalement
que réellement un argument de vente en tout cas.
Totalement. Okay.
Mais c'est vrai qu'après le stream offre des, enfin ouvre des perspectives assez hallucinantes pour les joueurs qui ont un bon PC chez eux. Donc c'est toujours, pour moi c'est toujours dans cette politique de Steam de sortir de cette machine qu'est le PC, qui est sous ton bureau, qui est sous ton truc, et puis d'essayer d'envahir, mais pour la bonne cause pour le coup. Ton habitat, ton salon, ta façon de consommer l'image et l'image en mouvement en l'occurrence. Et puis voilà, ça me semble assez logique et plutôt prometteur, effectivement.
Oh, tout à fait. Moi, ce que je trouve un peu triste, enfin, dommage, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il faille une machine qui puisse supporter Steam. Comme
les Steam, les Steambox, tu veux dire.
Mais voilà, Steambox, en même temps, c'est une sorte de PC, donc c'est un peu, ça coûte cher pour avoir juste quelque chose qui permet de streamer. Mais c'est vrai que je me disais, j'ai ma Xbox One, j'ai mon PC avec plein de jeux dessus, ce serait génial si je pouvais streamer ça sur ma...
Ouais, bah là, le problème, c'est que je suis pas sûr que Microsoft dise...
Non,
ouais,
c'est certain.
C'est bon, venez, faites-nous une petite appli là pour la Xbox One, et puis comme ça, les gens, ils auront plus besoin d'acheter des jeux sur notre console, ils pourront les acheter sur Steam.
Ah oui, non, mais le gros problème de Microsoft, c'est Steam, dans le sens
c'est clair. Évidemment, mais disons que là, pour moi, en tant que joueur, ça aura un intérêt énorme, parce que je peux pas me permettre de mettre en big picture... Steam sur ma télévision qui est trop loin, mais ce serait le pied, ce serait vraiment le pied. Est-ce que sur tablette, c'est quelque chose de prévu aussi?
Alors, tablette, je sais pas. À l'absolu, ils ont une application sur tablette. Pourquoi ne pas? Effectivement, peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai rien lu qui laisse entendre ça.
Là, vraiment, tout est possible, mais pour tous les constructeurs, c'est certainement quelque chose qui va complètement se démocratiser dans quelques années. Mais pour tous les, voilà, que ce soit la Xbox One, la PS4, bon, Nintendo, on sait pas trop parce qu'ils ont leur projet de base, mais ils risquent d'être très vite du coup largués. Mais voilà, Steam, c'est évident que ça risque de se développer.
Je suis d'accord avec tout ça. Sandro, Candy Crush Saga.
Ah oui, je fais juste un petit passage parce qu'on a déjà pris pas mal de temps. C'est juste pour dire, j'en ai parlé déjà pas mal sur le Facebook, mais juste pour faire un point pour ceux qui joueraient encore à ce jeu de merde. C'est donc un jeu qui a été fait par King. .com, je crois que ça s'appelle leur société, et c'est juste et ils ont en fait fait ils sont en train de contester le nom de The Banner Saga, qui est un jeu qui est sorti il y a 2 semaines là sur Steam, fait par une équipe d'indés qui sont extraits de BioWare, je crois, qui ont
aussi
donc peu d'argent, et ils les menacent de procès parce que ils ont Saga dans leur titre, Banner Saga, et du coup que comme eux ils ont Candy Crush Saga, Saga leur appartiendrait.
Ouais, voilà.
Je crois que c'est pas tout à fait ça, je m'excuse.
C'est oui, vas-y, dis-moi.
C'est le, en fait, ils contestent Banner Saga, a voulu déposer le nom de Banner Saga, et c'est ça qu'ils contestent pour éviter que ce nom de Banner Saga leur appartienne uniquement.
Ouais,
donc je sais pas si eux ils veulent eux-mêmes ils veulent pas déposer forcément Saga.
Non, mais c'est de dire nous on a Saga nous appartient. Et du coup, on refuse que vous l'utilisiez.
Je crois que j'ai l'impression qu'ils ont peur que Saga appartienne à quelqu'un d'autre.
Bah, c'est-à-dire qu'apparemment, ils sont en voie aux États-Unis pour essayer. Bah, j'ai discuté avec une amie qui est avocate, qui m'expliquait un petit peu comment ça fonctionne. Elle travaille dans justement les histoires
de brevets de copyright
pour Nestlé. Et puis elle me disait effectivement, pour quand on a des trucs comme par exemple le violet de la vache Milka, par exemple, c'est des choses qui sont tellement quand on parle de chocolat et puis qu'on pense violet. Tout de suite on pense à Milka, et là souvent que font les sociétés, elles essayent de elles le bloquent, parce que forcément si là il y a une vraie association psychologique à chocolat Milka. Le truc, c'est qu'il y en a d'autres, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de créer ça de façon factice, c'est-à-dire ils font ça par le vide. C'est ce que fait King, c'est de dire le mot Saga on le met sur tous nos jeux, alors on va essayer de faire le vide autour de nous pour qu'on puisse obtenir le droit comme Milka aurait sur ce violet, que plus personne puisse utiliser Saga à part nous, mais sans vraie justification pour l'instant. Saga, on voit dans des tas de jeux, il y a personne, mais ils le font, voilà, et ils font peur justement à des c'est facile pour eux, c'est des boîtes énormes qui ont des revenus gigantesques. Les mecs qui ont fait Banner Saga, pour l'instant, ils ont pas grand jeu, ils viennent de sortir leur jeu, donc ils ont pas un radis. Et puis le fait de leur dire ouais ben les gars, ils leur foutre un petit coup de pression pour que ben les mecs ils se disent non, ils sont trop gros, on va baster, on va changer le nom pour que eux ils puissent ben avoir leur saga.
Je sais pas si tu as vu l'idée, il y a un petit festival de création de jeux indépendants qui a été fait où le but c'était oui. de créer que des clones de jeux de Candy Crush Saga, enfin de King.com, avec que des noms proches, etc.
Oui, juste avec pour Saga, leur avec Saga Candy. Voilà. Et, tout, oui.
Et alors, c'est super drôle, c'est un article sur Merlan Free qui détaille ça.
Oui. C'est oui, je mettrai le lien sur le Facebook.
Super drôle de voir un petit peu tous les, on va dire l'imagination ou bien l'anti-imagination, je sais pas, de ces développeurs qui ont créé plein de jeux complètement débiles. Ils ont même fait une association entre Candy Crush Saga et puis Angry Birds.
Oui, j'ai
voilà, les trucs vraiment marrants. Mais il y a quand même quelque chose qui, voilà, les gens qui sont pas contents et puis des indés qui essayent un petit peu de faire pression sur. King.com pour que pas se laisser faire.
Alors que eux, en plus de ça, de l'autre côté, ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que eux, ils copient les gameplays des autres.
Bien sûr.
C'est-à-dire que Candy Crush Saga, c'est Bejeweled qui a été juste adapté. Mmh. Et ils ont énormément, la plupart de leurs jeux, c'est des copies d'autres jeux. Ils ont copié éventuellement un développeur indépendant. Ils ont pris exactement le même gameplay, exactement la même gueule. Et puis ils ont collé en plus de ça un nom avec Pac dedans pour faire penser un peu à Pac-Man. Et ces mecs-là vont dire aux gars de Banner Saga.
C'est monstrueux, vraiment. On n'a pas un gros poids, mais vraiment, ceux qui nous écoutent, ne jouez jamais au jeu de King.com. Enfin, vraiment, ouais. Rendez service, là, soyez militants pour
exactement.
Le coup.
Puis parlez-en sur Facebook, parce ouais, que c'est là que ça se joue. Parlez-en, mettez des articles, enfin, que les gens arrêtent de jouer
à ces jeux. Il y a plein de gens qui jouent à ces jeux, qui sont des militants pour plein de belles causes dans leur vie, et puis qui, tout d'un coup, vont passer des heures là-dessus et certainement donner de l'argent à King.com. Mais arrêtez, quoi. C'est vraiment là, c'est le grand méchant. Mm-hmm. Les grands méchants.
Ah, c'est vraiment une entreprise qui cherche à faire de l'argent et qui n'a aucune considération pour le jeu en tant que.
Et puis en plus, qui fout la merde pour ceux qui aiment le jeu vidéo, voilà. Comme par exemple Banner Saga.
Les mecs de Banner Saga. Ouais.
Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment à gerber.
Bon, au-delà de ça, c'est vraiment un problème de brevet aux États-Unis où tu peux vraiment breveter n'importe quoi. On avait eu l'histoire avec
aussi, hein.
Apple qui avait envie. Enfin, t'avais vu, Apple, ils avaient déposé un brevet pour leurs appareils qui étaient des rectangles avec des coins arrondis. Enfin, ils avaient voulu déposer un brevet pour cette forme. Au final, tout le monde rigolait en disant putain, mais si on n'a même plus le droit de faire un rectangle ou un triangle sans avoir une boîte qui nous tombe sur le coin de la gueule et qui nous dit ah non, pour ça on a un copyright, vous n'avez pas le droit, où va-t-on ? Mais ça, c'est quand même quelque chose qui aux États-Unis est sur le point de changer. Il y avait eu aussi toute l'histoire avec, je crois que c'était Mojang justement, quand ils voulaient sortir Scrolls,
oui,
où il y avait eu l'histoire avec The Elder Scrolls, où il y avait eu le même type d'histoire.
Scrolls, un mot qui a un sens très clair.
Oui, voilà, parole là qui veut dire quelque chose. Ouais. Bon, puis il y en a le contre-cas avec Wasteland Kings, en fait, qui était le jeu de Vamblir qui s'appelait Wasteland Kings et aujourd'hui s'appelle Nuclear Throne. Mmh. Et justement, le problème était que les mecs de Wasteland 2, mais là justement, ça s'est réglé à l'amiable. C'est bon, les gars, on veut pas vous foutre la merde, mais là, on a peur qu'au niveau du thème, on se marche dessus. Et puis du coup, ça s'est réglé. Voilà.
Il y a même ça dans l'actualité musicale romande avec Fauve qui va devoir changer de nom.
Ah oui ?
Il y a des choses à prendre la chose.
Pourquoi ?
Oui, parce qu'un groupe français qui s'appelle Fauve aussi est en train de monter pas mal en puissance et du coup, Fauve, le chanteur sûrement, va plus s'appeler Fauve.
Mais il était antérieur à.
Ouais. Mais il va plus s'appeler Fauve, mais alors là, c'est pas une question de brevet, c'est juste tout simplement que.
De notoriété.
Notoriété.
Mmh. Il y avait eu la même histoire avec ce. C'était un gérant d'entreprise aux États-Unis qui. Son nom de famille, c'était Madonna à l'époque. Et puis qui. Mais
c'est
je t'assure,
c'est
je t'assure. Il s'appelait Madonna, qui avait le nom de domaine madonna.com et qui avait dû le refiler à la chanteuse parce qu'il y avait une histoire de notoriété derrière.
Bon.
Où va-t-on ?
Donc c'est pas nouveau, mais voilà.
Bon, sur ce, on va nous faire passer un petit jingle, je pense.
Voilà, il n'oublie pas la musique.
Mais j'oublie pas la musique. La
comme
dernière
ça,
fois,
ça vous épargnera de la musique de merde.
Un petit Justin Bieber, un petit Rihanna à nouveau.
Bieber, je l'ai pas mis. Hein. Je trouvais pas de Bieber.
Oh, décevant.
J'ai mis
Bieber.
Les Backstreet Boys pour ceux
les
qui se posent la question.
Tout de suite, j'ai reconnu
voilà,
l'amour d'enfance.
Mon amour d'enfance.
Un petit 17, ça me ferait plaisir.
Ok, un petit 17, ça marche. Alors, vous avez quelqu'un qui a d'autres désirs que 17 ? Comme ça, généralement, je mets deux morceaux.
17, c'est un peu pourri. Hein.
Non, je pense qu'on a déjà touché le fond. Ça va largement suffire.
Oh, je pense qu'on peut trouver pire encore.
Les New Kids on the Block.
Oh, les New Kids on the Block. On va voir ce qu'on peut faire. Donc,
Merci, Sandro.
Musique.
Alors, musique ? Alors, comme dirait la Team Rocket, on est de retour pour vous jouer des mauvais tours.
Ah putain, la situation.
Donc, je suis désolé, il fallait quand même que je place un truc bien nul.
Tu vends du rêve.
Bah oui, mais vu qu'il n'y a pas Sébastien aujourd'hui, on ne peut pas faire de gag sur FIFA. Donc, désolé.
Quel ennui,
effectivement. On va parler un petit peu des jeux vidéo auxquels on joue, parce qu'on joue quand même passablement. Donc, je vais commencer par moi.
Ouais, vas-y, commence, ça me paraît bien.
Mais moi, je ne joue pas à grand-chose, c'est ça le problème. Je joue à deux jeux. Je joue pas
à
mal.
À la bourse.
Ouais, je joue à la bourse, entre autres. Ouais. C'est un bon jeu, mais c'est un peu comme ces ARG où tu es tout le temps Alternate Reality Gaming, où tu dois tout le temps être dedans.
En plus, c'est d'à peu près aussi bon goût que King.com, en fait.
Ouais, puis, totalement.
Il y a un petit côté roguelike aussi.
Aussi, il y a effectivement un côté roguelike. Ouais. Là, je suis pas loin de mourir, mais ça devrait aller. Donc,
il y a un côté roguelike, mais c'est les autres qui meurent.
Ah oui, ça c'est mieux, c'est du PVP. C'est du PVP sauvage. Moi, je joue à... Bah, on en a parlé un petit peu avant, je joue à Scrolls sur PC. J'ai un ami fort gentil qui m'a donné un friend code pour Noël. Et je dois dire que je suis relativement surpris. J'avais fait un petit peu la bêta de Hearthstone par le biais d'un ami. J'avais exposé les 2-3 problèmes justement de gameplay qui étaient toujours changeants. Et je trouvais un petit peu le gameplay... je vais dire gamin, ça a un semblant de stratégie, mais au final, ça pourrait l'être un peu plus. Et je dois dire que Scrolls, pour ça, m'a vraiment énormément plu. C'est donc un jeu de cartes. Et en plus du jeu de cartes, enfin, les cartes qu'on joue, on doit les placer sur une sorte de board, comme aux échecs, où on doit protéger un certain nombre de totems.
C'est sur 5 lignes. Hein,
voilà, il y a 5 lignes et au bout de ces 5 lignes, il y a 5 totems. Chaque totem a normalement 10 points de vie et le but, c'est de détruire 3 totems de l'adversaire pour gagner la partie. Les cartes qu'on joue, il y a des sorts, il y a des enchantements, il y a des créatures.
Il y a des bâtiments, c'est ça aussi.
Il y a des structures, effectivement. Quand on pioche la première main, si tu veux, la première chose qu'on doit faire, c'est de se défausser d'une carte pour gagner du mana. Chaque carte dont tu te défausses te fait gagner du mana, mais tu as le droit de le faire qu'une seule fois par tour. Alors, tu as 3 choix quand tu te défausses une carte, c'est soit gagner du mana de ta couleur, soit gagner du mana, soit piocher 2 autres cartes en te défaussant de la carte. Dès le moment où tu commences à engranger du mana, ça te permet d'invoquer les créatures ou les structures, et les enchantements, et les sorts. Le but, c'est de protéger tes tours sur ces 5 différentes lignes, où tu as t'as 3 slots par ligne, si tu veux. Ça te fait au total 15 cases sur lesquelles tu peux poser tes créatures. Tu poses tes créatures et tu protèges tes tours. Et tu as trois stats, si tu veux, pour chaque créature. Tu as l'attaque, la défense, c'est ce qu'on appelle le countdown. En fait, le countdown, c'est un compte à rebours. Et à chaque fois que ce compte à rebours atteint 0, la créature attaque. Donc, il y a tout un jeu de stratégie, de protection de tes différents totems, mais aussi d'attaque par rapport justement
de placement
par rapport à la défense de l'adversaire.
Parce que tu peux attaquer que la créature ou la structure qui est le plus en avant, c'est ça ?
Non, c'est que tu vas attaquer. Enfin,
si.
Oui, mais tu vas attaquer la première chose qui est devant toi, en fait.
Oui, c'est ça que je voulais dire, en fait.
Il y a juste des créatures qui ont un pouvoir
qui s'appelle Relentless.
Voilà, Relentless qui permet de reporter les dégâts sur les suivantes.
Exactement.
Moi, je trouve que ça donne un petit côté pour avoir vu juste une. Très court vidéo, est-ce que tu dis un petit côté aussi plantes contre zombies?
Un petit peu, ouais, parce qu'il y a
vraiment le fait de placer tes différentes unités devant comme ça.
Pour un petit peu. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa comparé à Hearthstone parce que Hearthstone, il n'y a pas ce système de placement. Le seul placement qu'il y a, si tu veux, c'est ce qu'on appelait la provocation qui te permet justement d'attirer les créatures sur toi.
Il y a quand même un système de combo de buff qui peut, mais bon, c'est secondaire.
Oui, c'est secondaire, c'est pas l'essence même du gameplay, si tu veux.
Après, le public est tellement différent ciblé. Scrolls, c'est pour les mecs qui jouent aux cartes, qui touchent, quoi. Et puis de l'autre côté.
On vit pousser, on vit d'apporter aussi un nouvel élément, qui est l'élément un peu plus stratégique de placement.
Alors, Hearthstone, c'est vraiment pour attirer les mecs au jeu, le Pékin lambda au jeu de cartes. Ce qui fait plutôt bien.
C'est pour refaire en numérique ce que Magic a fait à l'époque en physique, quoi.
Mais c'est beaucoup moins dense que Magic. Hein.
Magic n'était pas au début. Hein. Il y a eu un gros succès. Quand le succès était grand public total, Magic était très
Mais même au début, il y avait quand même cette mécanique, par exemple, des terrains que tu devais poser. Alors que là, dans Hearthstone, c'est vraiment réduit au minimum. Hein. Même là, même le mana remonte automatiquement partout. Vraiment, Hearthstone. Alors moi, j'y joue pas mal avec mon petit frère parce que lui, il a accroché à fond et puis on se fait des parties de temps en temps. pour moi qui suis une pive en collectible card game, je dois dire que c'est plutôt agréable à jouer, mm-hmm. c'est plutôt rigolo, hormis que je peux pas m'empêcher d'être super voilà, leur modèle économique c'est bah contrairement à Scrolls
bah voilà,
où tu payes
parler.
Le jeu et puis ensuite tu peux acheter les cartes, t'as pas de séance de grinding en fait, tes cartes tu peux les échanger contre l'or, tu peux les échanger aussi tu
bon,
m'as
bon,
dit.
C'est, ouais, ouais. C'est ce qui est génial dans justement dans Scrolls, c'est que bon, mis à part le fait que tu peux acheter avec de l'argent réel des cristaux, ces cristaux te permettent seulement d'acheter des decks préconstruits, des avatars ou des, si tu veux, des cartes qui sont un peu les pick of the day. Mais par contre tu peux pas acheter de boosters avec ces cristaux. Le seul moyen d'acheter des boosters, c'est de l'acheter avec des golds, quelques currency dans le jeu. Et pour obtenir ces golds, soit tu fais des matchs contre des adversaires, soit tu complètes des quêtes, parce qu'il y a des quêtes en fait. Enfin, c'est des missions qui sont un peu prescriptées. Voilà, tu commences une partie, l'adversaire a déjà 3 tours, 3 créatures, puis tu dois le battre.
C'est le mode puzzle un peu.
C'est un petit peu le mode puzzle, ouais. Ou alors, échanger tes cartes ou les vendre à d'autres joueurs. Et c'est ça qui est génial, c'est que y a un chat, si tu veux, à l'heure actuelle, c'est juste un chat de trade où les gens. Mettre comme à l'époque de
donc mais les vendre contre des golds du jeu ou
des golds du jeu, d'accord. Ouais, contre la monnaie du jeu. Les gens cherchent des cartes, vendent des cartes, et en fait, dès le moment où tu vois quelqu'un qui poste, voilà, je cherche telle ou telle carte ou je l'échange contre une autre, tu peux aller cliquer sur un icône balance à côté du personnage et procéder à l'échange ou à la vente de ta carte. Tu sets le prix, le gars l'achète au prix que tu veux. Et il y a tout un modèle économique comme à l'époque de Magic, mm-hmm. justement, où il y a des sites alternatifs qui te permettent d'avoir les cotations des différentes mm-hmm. cartes pour être le plus juste sur tes prix. Et ça, je trouve ça sympa parce que ça te permet d'évoluer et de vendre tes cartes dont t'as pas besoin plutôt que de dépenser de l'argent pour avoir des boosters et d'avancer plus vite.
Le modèle a l'air plutôt inattaquable, hein.
Moi je trouve que c'est sympa.
Le seul petit problème de ce modèle, c'est que à cause des concurrents et que le fait que le jeu a de la peine à se lancer, Mojang a dit que ben peut-être qu'à terme il sera obligé de passer free to play comme de changer le modèle parce que malheureusement, apparemment, il est difficilement viable. Et ça, c'est vraiment.
Mais
dommage.
Les jeux qu'on mérite aussi, au bout d'un moment.
Exactement.
Hein.
Mais tu m'aurais dit si Blizzard n'avait pas été aussi greedy et qu'ils l'avaient fait eux, ça aurait marché parce qu'il y a la patte Warcraft derrière. Si Scrolls, ça avait été une licence basée sur un jeu existant.
Ah non, moi je pense que quand même Scrolls, pour y avoir un peu joué avec toi, avoir vu un peu, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus complexe et je pense pas que de toute façon Scrolls est amené à faire ce que fait Hearthstone.
Ça je le dis pas. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais si tout d'un coup on avait utilisé le gameplay de Scrolls avec l'ADA de World of Warcraft et le titre Warcraft derrière avec les personnages, etc., les gens auraient couru dessus parce que c'était une licence Warcraft. Le seul problème, c'est que c'est un tiers qui vient.
Plus de monde, ça, je suis...
Bien sûr.
Qu'il soit resté, je sais pas. Ouais, mais en tout cas,
mais ça aurait pas marché comme Hearthstone fonctionne. Parce que Hearthstone est hyper facile à piger, en fait. Enfin,
les bases,
qui suis un
ou alors, il aurait fallu développer un tutoriel de génie où vraiment tu fous des couches. Voilà, tu amènes des éléments de gameplay petit à petit avec des sortes de ligues, avec des couches de gameplay. Enfin, il aurait fallu être génial. Quoi.
Et puis, ce qu'a pas Scrolls par rapport à Hearthstone, c'est le bullshit Blizzard, comme j'appelle
ça.
Le truc où même si tu brandis une carte,
la
t'as l'impression d'être Dieu.
Ouais,
t'as l'impression d'être Dieu parce que tu jettes ta carte sur le terrain, elle fait un bruit. Pouf.
On est d'accord.
Tu jettes une grosse créature, le sol se craquelle.
C'est le Michael Bay du collectible card game.
C'est,
on est d'accord.
Enfin, voilà. Même si tu perds, t'as l'impression de gagner, quoi.
Mais ça, c'est pas complètement con. Enfin, évidemment, c'est le jeu vidéo. C'est
totalement.
Le jeu vidéo a ce côté, peut avoir ce côté du retour sur l'action que je trouve. Voilà.
Ouais. Non, mais je suis d'assez mauvaise foi parce qu'au final, j'ai envie de pas aimer Hearthstone et je veux dire, je l'aime. Ouais. En fait, ça m'emmerde, mais c'est un peu culpa.
Donc voilà, moi je joue à Scrolls et puis un petit peu de Bravely Default, peut-être qu'on en parlera par la suite parce que je crois qu'on est un petit peu plusieurs à y jouer. On verra en fonction du temps.
On a tous un peu joué, ouais.
Donc, Greg, à quoi joues-tu ?
Oula, pas grand-chose non plus, hein, désolé. Bon, j'ai un peu joué avec la One sur 2-3 titres, mais rien de mémorable, rien de suffisamment mémorable en tout cas pour que j'y revienne. Mais par contre, ça m'a donné envie, alors c'est peut-être une cause à effet, hein, mais ça m'a donné envie de refaire un peu de rétro. Donc je me suis relancé sur le Zelda 2 de la NES, donc le triste sire de la série Zelda, et puis aussi un autre triste sire mine de rien, c'est le Simon Quest, donc c'est le Castlevania 2 de la NES là aussi. Et je sais même plus exactement pourquoi je me suis relancé là-dedans. Je crois qu'il y a eu 2-3 articles à gauche à droite qui m'ont un peu motivé. Et ces deux jeux, alors c'est des jeux qui sont très très intrigant parce que à la veille entre guillemets de la sortie d'un Dark Souls 2, C'est deux jeux qui m'ont peut-être donné des indices plus précis qu'avant encore sur d'où venait Dark Souls, Demon's Souls. Mais peut-être que ça vient en partie de ces jeux-là. Parce que c'est des jeux d'aventure, d'action-aventure, qui ont des mécaniques très punitives au niveau de la progression. C'est-à-dire, vous pouvez... par exemple, Zelda 2. Je prends un exemple très concret. C'est que Zelda 2, c'est le seul Zelda à ma connaissance qui a une logique de points d'expérience. C'est-à-dire que chaque monstre que vous allez tuer va vous apporter un certain nombre de points d'expérience qui peut vous faire monter en niveau, vous faire gagner de la vie. C'est pas vous qui décidez, mais c'est de la vie, de la magie ou l'attaque. Plus intéressant encore, c'est que... non, ça c'est dans Castlevania, je m'embrouille. Mais voilà, mais en gros, vous avez un pool d'expérience. C'est-à-dire que vous butez ces monstres, vous avez ce pool qui se remplit. Si vous perdez vos 3 vies, les objets que vous avez acquis, c'est-à-dire dans le donjon, au Joyeuse, seront acquis, il n'y a pas de problème. Vous recommencez dans le temple de Zelda avec ces objets-là. Par contre, l'expérience que vous aviez acquise, qui n'a pas été convertie en level up, elle est perdue.
C'est marrant, ça fait penser à quelque chose.
C'est étonnant, n'est-ce pas ? Après, il y a encore, par exemple, Castlevania, le Simon Quest, qui fonctionne sur le même principe au niveau de l'expérience. Lui, il y a encore un truc un peu plus finaux, c'est que suivant les zones où vous bâchez du mob pour gagner de l'expérience, vous ne gagnerez plus d'expérience. Si c'est une zone, si vous êtes trop puissant pour cette zone, l'XP, vous n'en aurez plus. Donc, vous ne pouvez pas commencer à faire du grinding. Voilà, ça revient un peu à du Dark Souls, encore une fois, et Demon's Souls, où d'un moment, ça ne sert à rien de récolter des souls à l'infini dans des zones de base, quoi, parce que la route est trop longue. Il y a ça. Il y a une logique vraiment que j'ai retrouvée très forte, c'est vraiment l'observation, qui est capitale, où vraiment, en jouant à Zelda 2, j'avançais millimètre par millimètre, vraiment, j'ai pu le faire dans Demon's Souls ou Dark Souls, où les pièges sont pas injustes, sont pervers, ils vous demandent de l'observation. Alors là, on le fait avec les moyens de la 2D, mais quand tout d'un coup, vous... En plus, ils vous apprennent très bien, parce que par exemple, vous vous retrouvez contre un chevalier, c'est pas le chevalier qui me terrorisait quand j'étais petit, qui tape en haut, qui tape en bas, qui ont un bouclier qui va être désynchronisé par rapport à leur frappe, donc il faut observer où vous allez devoir parer, où vous allez devoir frapper. Il y a vraiment un vrai travail d'observation et de skill. Vous le battez dans une zone, et puis dans la zone d'après, vous retombez sur le même chevalier, sauf qu'au-dessus de vous, vous avez une série de blocs qui vous empêchent de sauter. Donc on vous prive d'une option, et donc vous devez vous adapter et comprendre. Et vraiment, j'ai retrouvé ça encore une fois, c'est rentré en écho très fort dans Dark Souls. Et puis la dernière chose, il y en a certainement d'autres, mais je ne veux pas faire trop long, c'est le côté aussi, on vous balance quoi. On vous balance dans ce monde, que ce soit celui de Castlevania ou celui de Zelda 2, sans indice, avec des villageois qui vont vous donner 2-3 indications, mais extrêmement étranges, nébuleuses, le fameux personnage dans le village de Zelda 2 qui dit « I am error » quand vous lui parlez. Enfin, il y a des choses extrêmement bizarres qui se passent. Et en plus, dans Castlevania, il y a des villageois qui vous mentent. C'est vraiment extrêmement étrange et il y a plein de choses à décrypter. Ça m'a vraiment fait penser à Dark Souls. Le Castlevania 2, peut-être encore plus, parce qu'il y a justement ces villageois qui vous mentent. Il y a un cycle jour-nuit. Il y a des énigmes où a priori vous n'avez aucune chance de les résoudre sans éventuellement aller voir sur internet, parce que vraiment les choses deviennent très complexes, ou alors vraiment en vous souvenant d'un villageois qui vous avait parlé 4 heures auparavant avec une sorte de phrase énigmatique qu'il faut s'agenouiller devant les divinités, enfin bref. Mais vraiment c'est le jeu très intéressant et je pense vraiment que ça fait partie des racines des Souls, vraiment.
Et tu les as joués sur
3DS?
Ok.
J'ai fait les deux sur 3DS. En plus, sur 3DS, il y a le confort, parce qu'il y a une sorte de sauvegarde un peu passive comme ça qui vous évite de passer par le système de code fastidieux de Castlevania en l'occurrence. Oh, oui. Mais vraiment, j'ai du mal à vous conseiller parce que quand même, c'est des jeux qui ont vieilli. Mais il y a un truc. Il y a vraiment quelque chose.
Parce que tu m'en as parlé récemment et Castlevania, j'ai profité de le relancer avec un ami. On s'est fait celui avec qui on avait fait le Zelda 1. Sur tes conseils, je me suis dit, on va le relancer, surtout que lui, il l'a sur NES, en fait. Donc, on l'a relancé ensemble. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est très bien fait dans le premier donjon, par exemple, aussi, avec les plateformes invisibles où on marche sur une plateforme. Et puis, la première fois, on tombe parce qu'il y en a une, en fait, où il n'y a pas. En fait, elle est dessinée, mais c'est vide. Oui. Et on tombe, mais la première fois, c'est pas très loin. Donc, puis après, justement, ça devient de plus en plus punitif. Et ça, c'est marrant parce que je me suis dit quand j'étais petit, j'aurais pris ça, genre, oh, c'est trop dégueulasse,
oui,
machin.
Mais c'est comme ça que je l'avais fait à l'époque.
Voilà, et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, il suffit de. Il y a oui. une des armes qu'il suffit de oui. lancer.
Qui sert à ça.
Et qui sert à ça, et elle tombe, et elle, dès que c'est le sol, elle rebondit, et puis dès qu'il n'y a pas le sol, et ben, elle passe elle à travers. Ouais. Et du coup, on ne tombe pas dedans, donc non. on peut ne pas tomber dans les pièges. Donc et c'est vrai que tu as raison. Ouais. C'est
donc il
juste...
y a cette avancée à la Dark Souls où si on est très prévoyant, très prudent, très prévoyant aussi, voilà, on s'en sortira, et il n'y a rien de complètement injuste. Enfin...
Et il y a un truc que j'ai envie de te demander, est-ce qu'ils ont corrigé sur la version 3DS ? Je suppose que oui, parce qu'il y a un truc absolument magique dans la version NES, c'est que dès qu'on va dans les pièces, dans les villages, il y a plein de pièces qui ont des portes secrètes ou des choses où on peut descendre en dessous. Et il y a un espèce de méga bug dans la version NES où dès qu'on rentre dans cette pièce, en haut, il y a les textures qui merdent complètement. Donc on sait immédiatement s'il y a un secret dans la pièce ou pas. Parce que si les textures merdent, il y a un secret, sinon il n'y en a pas.
Alors je me souviens très bien de ce bug dans... parce que je ne comprenais rien quand j'étais minot, quand j'ai fait le jeu. Mais il n'y a pas ce bug dans la version.
Ah d'accord, ok, voilà. C'est bien. La non mais vraiment. Cut.
Et puis voilà. Puis au-delà des qualités, la musique qui est fantastique dans Castlevania. C'est un jeu qui a une sorte de poésie qui est assez étrange comme ça.
Un feeling, une précision. Enfin oui. vraiment. Ouais, t'as bien fait de me.
Un grand jeu, mais estimé malgré ce que dit Angry Video Game Nerds, qui à mon avis rien compris au jeu. Enfin,
ah j'ai pas vu. Il a fait un.
Il avait fait il y a très longtemps une vidéo où il disait à quel point le jeu était à chier.
Ah bon. Ok.
Alors que non.
Comme
moi
quoi.
Ça me fait très envie en tout cas. C'est vrai que c'est des jeux qui. Les ayant fait tout tâter étant gamin avec très peu de connaissances et de culture vidéoludique, voilà, c'est des trucs qui m'ont juste martyrisé. Maintenant, avec tous les reculs qu'on a et les compréhensions de gameplay qu'il y a derrière, ce que m'a beaucoup apporté Dark Souls par exemple, Demon's Souls, bah ça m'intéresserait vraiment de tâter un peu à ça.
Ouais, j'aime pas jouer les fossoyeurs des vieux concepts, mais là c'est vrai qu'on sent vraiment qu'il y a une filiation très forte pour des jeux qu'on considère comme extrêmement modernes, comme Dark Souls et Demon's Souls, qui n'enlèvent rien à leur qualité. Mais c'est assez intéressant de voir où ils ont épuisé certaines de leurs plus grandes qualités. Ben, ils ont été épuisés peut-être.
On n'était pas prêts à l'époque pour ça.
Non, je pense pas.
Oui, je pense que moi, avec le recul, je me dis aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas cette qualité de tous ces jeux justement qui à vocation immersive, comme les Uncharted, comme les choses comme ça, où on n'a pas je retrouve pas cette finesse comme on amène le gameplay, comme on amène justement avec cet exemple du sol. L'exemple que tu donnais aussi avant où là dans Zelda avec le toit où on enlève la possibilité de sauter, enfin il y a des vrais on pense le gameplay, ça je trouve ça, enfin c'est incroyable, quand j'étais petit je me rendais pas compte de ça, et quand on revient les voir
à l'époque personne ne s'en rendait compte,
c'est ça. Mais quand on revient comme ça reprendre ces jeux aujourd'hui, on se rend compte à quel point en fait ils ont très peu vieilli. Ils ont une vraie qualité et ils restent aujourd'hui des très bons jeux et qui sont parfaitement jouables. Et si ce n'est plus, parce qu'à l'époque on se rendait pas compte et on se disait que c'était injuste. Alors que là, avec la maturité, on se rend compte que les mecs ils ont fait un boulot de malade derrière. Vraiment un boulot de game design très très impressionnant.
C'est vrai. Sur ce, Sandro, peut-être, à quoi joues-tu ?
Alors, je sais même plus de quoi je voulais causer.
Mais Sandro, il allait nous parler de Guacamelee.
Ah, juste Guacamelee. En fait, Guacamelee.
Là aussi, on vient un peu dans le rétro, un petit peu.
Alors, justement, Guacamelee, il est bien, mais il est un petit peu mal foutu sur certains points. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai quasiment fini. Mais vraiment il me reste plus que le boss de fin, mais je fais des challenges à côté dont un qui est particulièrement difficile, donc j'ai pas encore réussi à le faire. Mais donc le jeu au début j'avais pas mal d'a priori parce que je mets pas trop sa gueule, un peu un côté mexicanos, un peu chipos comme ça,
dessin animé M6 mercredi après-midi,
exactement, mercredi après-midi, exactement, qui est extrêmement désagréable. Et là il était gratuit sur le PSN Plus, donc je profitais quand même de tâter de la chose.
Tu l'as fait sur Vita ou sur
Sur Vita.
Ok, d'accord.
Et je dois dire que il fonctionne bien, on est vite dedans, on a vraiment en permanence envie d'avancer. Par contre, j'ai un petit goût qui restait de bizarre en fait, quelque chose qui me dérangeait, même si j'y prenais plaisir. Pour moi, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien dans ce jeu, qui m'empêchait pas d'avancer, mais qui fonctionnait pas bien. Et au bout d'un moment, j'ai un peu mis le doigt dessus. Le jeu est un peu inspiré de trois gros jeux, de trois types de gameplay. D'un côté, on a Super Meat Boy, avec ce côté séquence de jeu très précise, où il faut vraiment, puis assez courte, pas longue, mais vraiment concentré sur un écran généralement, où il faut enchaîner des plateformes en fait. Et différents mouvements. Il y a un côté Devil May Cry avec vraiment des combats, avec des combos très longs, très complexes qu'on peut faire. Et puis, ben, tout ça est englobé dans une partie Metroid avec une grande carte dans laquelle on navigue. Alors autant les deux premières choses fonctionnent assez bien, je trouve même je suis assez épaté d'avoir réussi à utiliser des mouvements qui fonctionnent en combat, qui sont pas inutiles en combat, où on se retrouve avec des choses souvent on se retrouve avec des moves qui sont juste donnés au combat ou juste pour la plateforme. Là vraiment ils utilisent des mouvements de combat dans la plateforme et vice versa, donc ça c'est très très bien fait, le mélange est très bon. Le problème qu'il y a, c'est sur la structure générale en fait. Ce choix de Metroid est très très bizarre parce qu'on se retrouve avec ce monde ouvert dans lequel on a une flèche permanente qui nous dit où aller, donc on perd complètement cette envie d'exploration où dans Metroid on est paumé, on essaie de comprendre, puis au bout d'un moment on comprend la structure du jeu et on avance. Donc là non, vraiment on a des grosses flèches qui nous disent va là, ensuite tu vas ici, donc il n'y a aucune...
Autant faire un jeu linéaire du si la direction est indiquée.
Totalement.
C'est un peu ça. Et puis ils ont ce côté un peu au forceps justement dû à ça, c'est-à-dire que le combat pour dire, vous avez vu on a fait un système de combat, alors ce qu'on fait c'est que comme dans Devil May Cry, tu arrives dans une zone, il y a des murs qui se mettent de chaque côté, il faut battre un certain nombre de vagues d'ennemis et après on avance. Et là, il y a quelques ennemis, mais il y a très peu d'ennemis dans le monde ouvert au final. Et du coup, on a vraiment ces séquences de combat. Après, on va obtenir des nouvelles capacités qui vont permettre. Mais justement, là encore, dans un bon Metroidvania, les capacités, on doit se dire, ah ouais, il y a tel endroit. Si j'utilise cette capacité comme ça, mais c'est pas évident forcément. Et il y a plein de passages secrets où le défi c'est de trouver le passage secret. Là, il n'y a pas de défi de trouver les passages secrets. Sur la map, on a les carrés en fait qui correspondent aux pouvoirs qui sont chacun de couleur, dès qu'on obtient le pouvoir rouge, le pouvoir bleu, le pouvoir violet, et puis du coup il y a des carrés à casser en fait qui correspondent au pouvoir comme les missiles dans Metroid.
Mon Dieu.
Et du coup c'est fait avec tellement peu de finesse que du coup en fait la seule chose qu'il y a c'est que dès qu'on casse ces trucs on accède à un défi, c'est-à-dire soit un nouveau combat extrêmement difficile, soit à une zone d'escalade, soit alors là pourquoi avoir fait un monde ouvert ? Enfin, tout le reste est très bien, mais ils auraient pu faire une séquence complètement linéaire et le jeu n'aurait pas été moins bien, en fait. Ça alourdit et ça donne un espèce de petit goût un peu de tout pourri, comme ça, de fond qui est un peu désagréable.
Ça devient presque, je trouve... Enfin, moi, quand j'avais joué... Voilà, le monde ouvert, pour moi, c'était une excuse mal utilisée. Et en plus, je trouvais presque que c'était une punition pour moi de devoir me promener à gauche, à droite. Enfin, il y avait des trajets, j'avais l'impression qu'ils étaient interminables.
Tu reviens au sein de la checklist, quoi.
Exactement.
Presque, ouais.
Sans réfléchir, je vais aller voir le manache, enfin.
Alors que c'est con, parce que vraiment, il y a un vrai talent dans les défis à la Super Meat Boy qui sont vraiment. Moi, j'aime ça, la plateforme précise, la plateforme où on recommence plusieurs fois pour essayer d'avoir le mouvement parfait. Ça, j'aime beaucoup. Et là, ça marche du tonnerre. Les combats marchent pas aussi bien, mais presque aussi bien. Vraiment, il y a des jolis combos. Le personnage est extrêmement précis, il se manie très bien. Mais il y a. Je suis arrivé au bout, donc je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est même plutôt un bon jeu, mais vraiment là, typique, on est dans des choix. Voilà, on revient à la discussion d'avant sur Greg avec ses jeux comme Castlevania, comme tous ces jeux d'époque où on sent que, j'ai l'impression que ces jeux-là étaient, les mecs savaient ce qu'ils faisaient. Là, on a l'impression que on se retrouve avec un jeu où il y a des parties sur lesquelles ils savaient ce qu'ils faisaient, puis d'autres ont dit ouais. On a l'impression que j'aime bien les mondes ouverts, j'aime bien les Metroidvania, alors on va mettre ça dans un Metroidvania. Alors que c'est pas pertinent. Et du coup, on se retrouve avec un jeu un peu boiteux.
On dirait qu'ils ont... Qui manque de cohérence.
Voilà,
ils ont des cohérences en différentes
phases. On dirait qu'ils ont eu peur de pas faire un... De se dire il y a pas assez de substance, il faut absolument qu'on mette un côté Metroidvania un peu ouvert, sinon on va nous taxer d'un jeu un peu trop léger, un peu trop...
Alors que non, il y a tout ce temps qu'ils ont passé à faire ce monde ouvert et tout, ils auraient
très bien
pu.
Est-ce qu'il est long, ce jeu ?
Long, non.
Je me demande si c'est aussi un moyen pour eux de rallonger un peu la durée de vie, je sais pas.
Enfin, oui et non, parce que ce qui rallonge la durée de vie, c'est les phases de plateforme qui sont extrêmement difficiles, extrêmement punitives. D'accord. Donc, c'est pas du tout. Et puis, ça, c'est pas un reproche à faire, parce que Super Meat Boy est aussi comme ça. Non, ils auraient très bien pu se permettre de
Mais pas... est-ce que tu crois aussi, tout simplement, enfin, je vais prendre le problème à l'inverse, mais est-ce que tu crois que c'est pas tout simplement un mauvais Metroidvania ? Parce qu'il y a dans Metroid, dans les Castlevania, il y a des phases de plateforme très dures, il y a des combats de boss très techniques, mais tout ça est dans un univers cohérent. Est-ce que tu crois pas que c'est juste...
Pour moi, en fait, je dirais pas ça parce qu'il a des éléments qu'un Metroidvania classique a pas. C'est-à-dire, dans un Metroid, on n'a pas toute cette richesse de mouvement qui est extrêmement proche justement d'un Devil May Cry. On a vraiment des combos très complexes avec des juggles, des choses comme ça. Donc, on a un système de combat qui est vraiment beaucoup plus élaboré, qui fonctionne. Et puis, de l'autre côté, la plateforme est exigeante, mais elle est faite de façon très différente, en fait. Elle est elle est beaucoup plus diluée, elle est beaucoup moins, il y a moins, c'est très moderne en fait la façon dont elle est faite. C'est vraiment l'inspiration Meat Boy-esque, c'est vraiment cette nouvelle façon de faire des défis très très corsés sur une toute petite espace, et le feeling est très différent de ce qu'on peut trouver dans un Metroid où il y a pas là dans une phase de plateforme on va devoir combiner énormément de mouvements en une vingtaine de secondes, on va combiner énormément, une dizaine de mouvements les uns derrière les autres pour se maintenir en l'air, passer à travers faire des roulades en même temps. Enfin, Metroid est géré très différemment. Metroid est beaucoup plus cohérent parce que un Metroid ou un Castlevania monde ouvert, eux, tout est axé sur le fait de justement avoir des mouvements qui permettent l'exploration, qui permettent enfin, c'est cohérent quoi, c'est cohérent. C'est qu'on cherche à avoir un set de mouvements et des capacités qui sont là pour explorer le monde en fait. Et le challenge, c'est justement de l'explorer en entier
et
de tout trouver.
Qui souvent s'adaptent aussi, qui sont adaptables au combat.
Bien sûr.
Voilà, donc voilà. Ça fait un univers cohérent. Mais t'as réussi à me donner pas du tout envie de jouer à Guacamelee.
Ouais, je suis désolé, pourtant ça me...
Jack, il a une sale gueule, mais alors en plus...
Pourtant, ça m'embête parce que ce jeu, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Donc, ça m'embête de dire ça, mais oui, un petit arrière-goût qui fait que j'ai de la peine à dire « Foncez, c'est fantastique ». Bon, là, c'est gratuit, ceux qui ont envie d'essayer, qu'ils se fassent leur avis, mais voilà.
Moi, j'aimerais bien qu'on me ressorte un Shadow Complex.
Ah oui, ouais,
parce que Shadow Complex, il le faisait bien.
C'est le dernier grand Metroidvania.
Tout à fait.
C'est celui-là, hein. C'est celui-là et pas un autre. Hein. Et d'ailleurs, il est cité, je pense que ça va rester une référence, un peu une balise pour l'avoir refait il n'y a pas si longtemps, peut-être un an et demi. Je trouvais le jeu absolument monstrueux.
Ouais.
Et puis en plus, il raconte des choses. C'est fou. Il y a des choses qui se passent dans les niveaux vraiment hors cinématique. Voilà, bon. Mais vraiment, dans l'agencement des niveaux, il y a des choses qui se racontent et tout. C'est fantastique. Ça, c'est un très très grand jeu. Ouais.
Ouais. Bon. Sur ce, on va passer à notre dernier petit personnage qui est Monsieur Sam, qui va nous parler d'un truc complètement fou.
Alors moi, je vais parler d'un jeu qui demande une précision extrême, tout comme le tien, qui est ultra hardcore aussi au niveau de l'exécution. C'est Octodad.
Ah, parfaitement. Voilà. C'est parfait. C'est
Octodad, donc, que j'ai fait vendredi dernier, où j'ai passé 3 heures de pur bonheur et plaisir dessus. En me posant plein de questions, en me marrant, voilà. Par quoi j'ai commencé ? Peut-être expliquer en deux mots ce que c'est. Octodad est donc un père de famille, tout ce qui est plus normal, sauf que c'est un poulpe. Personne ne le sait. Le joueur le sait et lui-même le sait, c'est tout. Ce que ça va impliquer, c'est que lui, il ne veut pas qu'on devine que c'est un poulpe. Et pour ça, il va devoir agir de manière tout à fait normale, comme n'importe quel père de famille. Le problème étant que les contrôles sont absolument... catastrophique, volontairement catastrophique. C'est extrêmement compliqué de faire la moindre action normale avec ces personnages. Donc en fait, on va avoir une succession de tableaux, on va dire, qui se déroulent à différents lieux, différentes choses, qui font un petit peu un amalgame de plein de scènes d'infiltration, de plateformes, de choses à faire qu'on trouve dans d'autres types de jeux, avec des contrôles complètement pourris.
Mais c'est dans un cadre de quotidien. Hein,
c'est dans un cadre de quotidien, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même 2-3 trucs qui partent un peu en live. C'est pas si quotidien que ça tout le temps, disons. Voilà.
J'y reviendrai après, moi, c'est un peu là mon problème.
Tout à fait. Ce qui est vraiment particulier, c'est que le gameplay est volontairement foireux, mais en même temps, on l'accepte très bien parce que tout est basé là-dessus, et ça en devient extrêmement drôle. Donc je pense que les deux intérêts principaux de ce jeu sont... soit de se marrer en ayant des situations complètement loufoques ou pour réussir à attraper, faire ton café le matin, t'en fous partout, tu fous des beignets à ta femme et tu renverses la table du salon.
Moment mythique.
Moment mythique, franchement.
Oui. Où tu arroses la tête de ta fille de lait.
C'est ça.
Le ketchup.
Donc je trouve assez sympa parce qu'il y a peu de jeux qui, je trouve, réussissent à faire marrer le joueur par leur gameplay. C'est assez rare quand même. En général, c'est plutôt ce qui est raconté narrativement, etc. Mais là, c'est vraiment le gameplay lui-même qui est drôle. Et l'autre chose qui est assez intéressante, c'est de pouvoir revisiter donc, des types de gameplay plus classiques en essayant, si on est un joueur un peu plus assidu que moi, de le faire très bien. Donc je pense qu'il y a moyen de vraiment maîtriser ce gameplay, voire de faire des speedruns. Et moi, je meurs d'envie de voir des speedruns sur ce jeu.
Clairement.
Vraiment.
Je peux poser une question de newbie. Tu y joues sur quoi et ça se joue comment ?
Alors là, je l'ai fait sur PC avec une manette 3.6. D'accord. Je pense qu'une manette est assez indispensable.
Oui, c'est...
clairement. En gros, tu contrôles un de ses bras, quand tu joues tout seul en tout cas, le bras droit, je crois.
Ah, tu contrôles pas les deux ?
Non.
Ah, moi j'ai joué qu'en coop.
Ou alors ça a bugué, je sais pas, mais en tout cas, non, tu peux prendre que le bras droit.
Mais dans la démo que j'avais joué avec toi, il me semblait que tu contrôlais les deux bras chacun sur un stick, et puis que quand tu appuyais sur les gâchettes, tu contrôlais les deux pieds.
Alors, c'était pas mon cas. Okay. Alors peut-être que j'étais en mode normal, je sais pas. Mais
peut-être
j'ai
que
pas
c'est
trouvé comment.
En mode de difficulté.
Fais attention aussi que t'aies pas le mode coq qui s'est enclenché, parce que dès que le mode coq, c'est ça. C'est que chacun contrôle la moitié du corps.
Non, c'est marrant parce que ça semble un peu limitant de dire tu joues un poulpe et puis tu peux contrôler qu'un bras.
Effectivement.
C'est pas fini. Et sinon, tu contrôles donc les deux jambes. En levant la gâchette droite permet de lever la jambe droite, la gâchette gauche permet de lever la jambe gauche et ensuite de la contrôler dans l'espace. Les deux sticks sont utilisés pour le bras en question parce que tu as une question de hauteur, profondeur.
Ah, et du coup, ils l'ont. Ouais, parce que ça, effectivement, tu l'as aussi en coop. Ah, donc du coup, ils ont fait le choix de laisser tomber les deux bras. Puis
voilà. Bah, sinon, tu n'as pas assez de sticks. Bah, c'est pas assez de pouces,
oui,
non plus.
Effectivement.
Tu n'es pas un poulpe.
Tu n'es pas un poulpe.
Voilà. Donc, les choses sont relativement simples, mais juste complètement contre-intuitives, même si tu te débrouilles de mieux en mieux de l'aventure. Et puis, il y a vraiment, je pense, un moyen de maîtriser ça.
D'ailleurs, anecdote, oui, les développeurs se sont inspirés, je ne sais pas si vous vous souvenez, du magnifique Trespasseur, qui était un jeu Jurassic Park sur PC, un FPS, où ils avaient eu magnifique idée de dire qu'on contrôle un bras, en fait, oui, et que du coup, avec la souris, on contrôle vraiment le bras dans l'espace, et qui donnait un jeu. Mais d'ailleurs, il y a le joueur du grenier qui a fait une magnifique vidéo là-dessus, à mourir de rire. Où, bah, voilà. Puis, en pensant à ce genre de trucs, ils ont décidé de faire Octodad.
C'est un vrai jeu postmoderne, Octodad. C'est un jeu qui regarde le jeu vidéo en arrière, qui dit voilà, maintenant, on peut travailler sur des jeux injouables.
C'est ça, mais vraiment, c'est une grande originalité finalement de faire un petit côté histoire du gameplay de base, en tout cas du jeu vidéo, à travers un gameplay injouable. Et moi, j'ai trouvé ça génial, vraiment.
Bah, moi, où je mets un bémol, alors on l'a fait en coop, on a éclaté de rire, le début est extraordinaire, vraiment, surtout qu'en coop, alors c'est chacun part de son côté, chacun contrôle une jambe, chacun contrôle un bras, donc ça part dans tous les sens, c'est extrêmement drôle. Le petit problème pour moi, c'est, dans ce que tu as dit, tu en as un peu parlé, c'est qu'ils sont un petit peu perdus entre deux extrêmes. C'est-à-dire que l'idée, c'était à la base, on sent vraiment les premiers niveaux, c'est très présent, les trois premiers, que ce soit le mariage au début, et après le réveil le matin dans la maison où il faut faire le barbecue et puis le supermarché. Là, ça marche du tonnerre de Dieu parce que le but était justement de faire du comique. C'est-à-dire de dire on va mettre des contrôles pourraves qui sont volontairement difficiles et du coup, on va tout casser, on va être extrêmement maladroit. Donc du coup, on va sortir du comique de là. Et tout d'un coup, on arrive à la moitié du jeu où on commence à rentrer dans un jeu où ils ont essayé de faire un gameplay, en fait, où ils ont essayé de mettre des défis, ils ont essayé de mettre des trucs de précision. Et là, je trouve que le jeu se perd, en fait. Parce que c'est pas la vocation de ce jeu. Moi, j'aurais voulu qu'il
Tu penses à quoi ?
Dès qu'on arrive dans l'aquarium, en fait. Pour moi, ça devient complètement tout pourri parce que... Enfin, pas tout pourri, on a quand même continué. Mais on perd complètement le focus génial du début. Moi, j'aurais voulu qu'on me mette dans plein de situations de la vie de tous les jours et que je cache des trucs et que j'en foute partout et que je continue à rire. À partir de l'aquarium, j'ai arrêté de rire, en fait. Je me marrais plus. J'étais plus en train d'essayer de faire des trucs précis pour essayer d'être précis avec cette maniabilité qui ne l'est volontairement pas. Et du coup, là, je trouve que ça perd un petit peu le focus.
Il y a eu un petit moment de coup de mou, c'est ce dont on parle, effectivement, où je trouvais que c'était un peu moins drôle. Et après, je trouve que ça reprend parce que justement, ça laisse un peu plus de côté ce côté vie familiale, quotidien, etc. pour plus explorer justement d'autres types de gameplay et d'autres scènes mythiques de jeux vidéo. Revisiter qu'un gameplay foireux. Okay. Et donc,
effectivement,
il y a un petit coup de mou. Mais le boss, j'ai pas le spoiler, mais le boss final est génial. C'est un truc tout con. Hein. C'est un boss qui est au milieu de la pièce. Toi, tu dois te déplacer, t'as des piliers pour te protéger qui te balancent des couteaux. Et tu dois réussir à aller à différents points pour le blesser. Sauf que réussir à se déplacer autour de ce boss, c'est tellement la galère.
C'est là où je dis on perd le côté rigolo. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve.
C'est génial.
Ah, moi j'ai trouvé.
J'ai trouvé drôle, en fait, voir cette scène de boss ultra classique, mais où genre t'as un couteau qui t'arrive dessus, genre ah, c'est bon, je vais l'esquiver et tu n'y arrives pas. Tu t'en mêles, et puis tu glisses sur une peau de banane, et puis. Du coup, t'as un vrai gameplay, une vraie difficulté qui existe quand même parce que tu dois gérer cette maniabilité foireuse avec une sorte de modèle de gameplay historique. J'aime bien cette superposition.
De pervertir le modèle historique.
Voilà.
C'est pas inintéressant, effectivement.
Pareil pour les zones, les passages d'infiltration ou comment être discret avec un poulpe qui glisse tout le temps, quoi. Enfin, c'est génial.
Oui, mais c'est génial, mais le problème, c'est que là, ça devient un peu agaçant, en fait. Il y a des moments où je me suis senti agacé. Quand j'ai dû recommencer, il y a un passage avec une poutre, là, qui m'a saoulé, mais d'une
relative, moi, d'ailleurs, moi,
de
rire.
On a posé. Parce que je trouvais, au bout d'un moment, le truc relativement... Parce que quand tu... La première fois que tu tombes, tu rigoles. La cinquième fois, tu rigoles moins. Parce que ça devient un peu agaçant, alors que le début, quand tu fais le jardin là, avec ta tondeuse à gazon, que tu n'arrives même pas à passer sur les herbes, qu'il manque la moitié des trucs, que tu fous la tondeuse à gazon dans la gueule de ta fille, tous ces trucs-là, là on est drôle parce qu'on est dans des moments. Moi je trouve qu'on rentre dans un comique de situation qui est très très cool. Après,
je vois très bien ce que tu veux dire,
ouais.
Mais je pense que si ça avait été tout le long comme ça, ça aurait été un peu. Mais... ça serait un peu tombé à plat. Moi je trouvais bien qu'ils essayaient autre chose sur la fin.
Mais moi c'est peut-être là où je veux en venir. C'est, est-ce que c'est pas un de ces jeux qui est piégé dans son concept? Parce qu'au final, ça me fait penser, moi, comme, parce que moi j'ai vu aussi, je ne l'ai pas joué, mais j'ai vu les vidéos voilà, de Octodad dans son quotidien, et ça, moi, ça me faisait hurler de rire, rien que de voir les vidéos, je trouvais ça brillant, vraiment. Mais après, je me suis toujours posé la question, comment, au final, faire vivre ça sur la longueur, il aurait fallu un twist de génie pour tout d'un coup retourner le truc et puis transformer ça en vrai jeu génial. Là, j'ai l'impression que c'est un peu un jeu concept.
Ça reste un jeu concept
qui se limite. Tu vois, ça me fait penser. Alors, c'est un très bon exemple parce que le jeu a pas l'air terrible. Hein, c'est plutôt nul là, ce jeu très limité où tu joues un chat qui est dans une chambre. C'est un jeu indé. Et puis le seul but de ce chat, c'est de faire tomber, c'est de foutre de la merde quoi.
Je vois pas ce que c'est marrant.
En gros, c'est un jeu vu la première personne où tu joues un chat qui est laissé tout seul dans sa chambre. Et puis qui son but c'est de foutre le plus de bordel possible parce que son maître l'a laissé tout seul en fait.
Okay.
Voilà, ça fait penser un peu à ce genre de truc, c'est que c'est très marrant, ça a duré 5 minutes dans le jeu du chat. Le mec a déjà dit oui, parce que ça a le monstre succès, le monstre buzz, donc il a déjà dit oui, je vais commencer à construire un jeu autour de ça. J'ai peur que voilà.
Bah, pour moi en fait, il y avait plus à faire en fait. C'est-à-dire moi je sors de cette expérience de cette première partie avec j'avais envie de plus parce que vraiment au début je suis arrivé à la fin.
Pour l'aquarium, qu'est-ce que tu as fait comme séquence? Parce que moi il y en a deux qui m'ont gonflé, c'est tout.
Non mais en fait, j'ai arrêté de rire en fait. C'est-à-dire que c'est juste ça, c'est que pendant les trois premières mais je pleurais tellement je riais, enfin les deux on était avec mon pote, on était mais explosé de rire, c'était vraiment extrêmement drôle. Et du coup là, il y avait un comique de par le gameplay que j'avais jamais expérimenté et que je trouvais extrêmement malin de faire du comique avec ça. Avec un gameplay, faire du comique, c'était inédit, ça me faisait hurler de rire. Et après, je rentre dans un jeu qui a plus grand chose à voir avec ça. En fait, je ris plus. Donc, je suis à m'appliquer, mais je me marre plus. C'est plus tellement rigolo. Donc, du coup, c'est juste là où je me dis, dommage, moi j'avais encore envie de rire en fait. J'avais pas fini de rire. Et j'aurais préféré qu'ils me mettent encore plein d'autres situations complètement débiles, plein de situations de la vie de tous les jours. Tu vois, il y a le mariage, mais ça pourrait être plein d'autres situations où t'es censé être hyper. Où t'es censé justement te tenir, être hyper, faire attention
la normalité,
à tout, voilà, être dans la normalité, et puis d'avoir ce personnage contrôlé à deux, et puis qui part dans tous les sens au milieu de ces gens qui sont terriblement normaux, et puis qui te regardent comme quelqu'un de normal, puis qui refuse de voir que t'es un poulpe. Je trouve que c'est hyper drôle, et il y aurait eu tellement d'autres choses.
Moi, je trouve sympa aussi du côté métadiscours, du côté ce personnage-là n'est pas un personnage normal, et ça rejoint un peu l'idée du jeu qui se montre comme un jeu. Qui veut se faire passer pour un jeu normal et qui ne l'est pas. Je me suis posé cette question.
Moi,
je pense que c'est le cas.
En ayant vu beaucoup d'interviews des développeurs, c'était vraiment le comique de faire du comique dans le jeu vidéo. C'était leur objectif en fait. C'était de dire quand ils ont vu tous ces jeux qu'ils aimaient, qui avaient des gameplay foireux qui les faisaient rire, ils se sont dit mais aujourd'hui, je pense qu'on peut faire du comique avec du jeu vidéo et ça a jamais été pensé comme ça en se disant on va faire comme tu dis. Jusque là, c'était les blagues de Tim Schafer dans ces jeux, voilà. Mais c'est du texte, c'est pas du jeu. Tandis que là, de faire un jeu comique par le gameplay. Et c'était vraiment leur volonté, et je pense qu'ils sont brillamment arrivés pendant trois niveaux, et après je sais pas pourquoi ils sont partis ailleurs.
Bon, on n'est pas tout à fait d'accord.
Ouais, on n'est pas tout à fait d'accord.
Bah, ça a l'air en tout cas d'être hyper intéressant à jouer, ça donne envie. A priori, je rejoins plutôt l'idée de Sandro, parce que c'est vrai que ce que j'en ai vu dans cette confrontation au quotidien en tant que poulpe, je trouve ça absolument génial, et ça donne qu'une envie, c'est d'y aller. Après le reste, j'ai pas vu le reste, mais ce que j'en ai entendu me donne un petit peu moins envie, même si c'est assez intéressant. Effectivement, cette confrontation aux mécaniques jeu vidéo classique avec cette maniabilité par essence non maniable, je trouve ça plutôt intéressant. Mais après, je me méfie aussi parce que effectivement t'as aussi la douche froide de passer de ce rire total à tout d'un coup quelque chose qui tout coup bascule dans.
Bah c'est là où on est dans ton gimmick, dans ce que tu disais, le gimmick, c'est-à-dire que pour moi c'est cool un moment, l'idée est très bonne, mais elle tient pas sur la longueur. Alors que pour moi le comic de situation peut se permettre de tenir pendant très longtemps si tu trouves des situations drôles en fait.
Encore une fois, moi je me suis marré différemment, mais je me suis quand même marré tout le long. Donc, je pense peut-être que tu n'as pas trouvé toi quelque chose qui pesait les coups, ou tu étais déçu que tu ne pas continuer sur le même type de comic de situation que le début. Moi j'ai trouvé d'autres choses qui m'ont fait rire aussi.
Ça marche.
Bon.
Ben, toi t'as rien.
Jouer Octodad, c'est trop bien.
Bravely Default, ce sera pour un autre podcast.
Je pense,
alors,
parce
qu'on
est parti.
Alors,
par moment,
on est à 1h. Ouais, on arrive à 1h20. Je vais juste dire un truc avant de finir.
Ah,
très court.
Vas-y.
J'ai un truc, un petit espèce de petit plaisir coupable. Si je peux inciter les gens à l'acheter, qui ont une Vita, parce qu'il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas forcément ces temps-ci énormément de jeux. Achetez Oli Oli. Pour ceux qui aiment. Alors, ça concerne un certain nombre de personnes. C'est-à-dire ceux qui aiment Tony Hawk.
Voilà.
Et qui ont la nostalgie de Tony Hawk 1, 2. Et puis qui ont envie d'un Tony Hawk en 2D qui fonctionne, mais du tonnerre de Dieu. Je n'arrive pas à lâcher ce jeu. Il est absolument fantastique.
J'ai vu des critiques dithyrambiques partout.
Ouais,
effectivement.
C'est génial. Vraiment, ça marche hyper bien. C'est hyper précis. Il y a une façon, une maniabilité qui est très différente de tout tout ce qui a été fait jusque-là. Et en 2D, ça marche très bien parce que du coup, on peut vraiment se concentrer sur quelle figure on lance, la façon d'atterrir. Il y a un système de combo qui marche très bien, qui demande d'être précis. Enfin, c'est vraiment avec un système de défis où on a plusieurs, assez classique, hein, plusieurs défis à accomplir dans chaque niveau. Dès qu'on les accomplit tous, on débloque le mode difficile. Il y a un défi journalier mondial où on peut défier le monde entier. Enfin, le jeu est hyper complet. Il coûte pas grand-chose, 10-12 francs, je crois. Et vraiment, c'est, voilà, si on aime un peu le skate et faire des. En jeu vidéo, en tout cas, parce que moi, j'aime pas le skate en vrai, j'y connais que dalle. Mais je dois dire que là, je prends un plaisir fou à faire des tricks de malade.
C'est dingue, comme j'ai l'impression que les jeux 2D, en fait, ils sont beaucoup plus. Enfin, ils te permettent de t'immerger dans le gameplay énormément plus que les jeux actuels en 3D. Où au final, t'es perdu dans le décor, t'es perdu dans la mise en scène, et au final.
J'ai envie de dire, ce sera le sujet d'un prochain podcast. Parce que
exactement.
Là, tu lances
effectivement,
quelque chose.
Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est d'accord.
Moi, c'est un vrai sujet de réflexion.
C'est un vrai sujet de
ce qu'on a dit. Mais si on se lance maintenant là-dessus,
effectivement,
on
n'est pas
préparé.
Non, mais on pourra faire un prochain thème là-dessus.
C'est très bien.
Je pense que ça serait très intéressant.
Bon, ben voilà.
Bravo Yannick. Merci.
Oh, quand même que je sais quelque chose à part parler. Hein. Donc voilà les loulous, c'est fini pour ce soir.
C'est fini pour ce soir.
Ouais. Mais on se retrouvera tout bientôt pour un nouveau podcast.
Bah, le mois prochain.
Le mois prochain.
Là, on était absent 2 mois parce que bon, fête de Noël, puis qu'on n'avait pas fait d'arrêt en été. Donc au moins, voilà, maintenant on est reparti.
Exactement, on est reparti.
Voilà.
Pour une bonne année 2014, une grande cuvée, messieurs.
Oui.
Magnifique.
Mais j'y compte bien. Et merci à tous.
Merci à tous. Merci, on va se quitter et puis à la prochaine.
À la prochaine.
À plus les loulous.
Ciao,
bye bye.
Bye. Come again soon.